J'étais chez les barouillas et un jour j'entends les gens qui commencent à bouger de partout pour aller vers une hutte, hein, une case. Ils amènent des feuilles de bananier, des grandes choses comme ça. Et on me dit, attention, on va soigner une dame là. Donc il y a les chamans qui vont intervenir parce qu'elle est. Elle n'est pas bien du tout. En effet, d'ailleurs, elle n'était pas bien parce que dans les semaines qui précédaient, je lui donnais du lait que j'avais en poudre et tout ça. Donc, elle était un peu... Et on va soigner avec les chamans. On va s'enfermer pendant la nuit pour faire la séance. Finalement, je demande la permission d'y être. Hein. Et je démarre donc à 7h15. On ferme tout. Hein. D'abord, c'est des grandes cases comme ça, mais... Il n'y a qu'une petite porte comme ça, on voit, il n'y a pas de lumière, quoi, pratiquement. Hein, on se glisse là-dedans, surtout c'est des petits gars par rapport à moi, déjà. Et on ferme tout, quoi. Et commence alors une séance, et là, j'étais comme... C'était une émotion profonde, parce que c'était ce que j'avais lu dans les livres. Les chamans ont commencé à éteindre le feu dans le noir, et puis ensuite à commencer à chanter, et à fumer énormément... de tabac vert, pour être dans un état second quand même. Hein. Puis ensuite, ils ont commencé à se lever, 3-4 chamans, tourner autour du feu, éteint, en chantant. Et le maître des chamans, le type le plus important, Inamoué, qui était, a commencé à chanter, et d'envoyer son esprit pour chercher l'esprit de la dame. Elle était assise avec son mari derrière, et puis on était 40 entassés tout autour. Là. Bon, alors donc, là, j'ai, le chant, c'était ce voyage de l'âme du chaman qui, à un moment, attrape l'âme de la femme, qui était emportée par un esprit mauvais. Et après, il y a les commentaires. Alors, il lutte, il ramène l'esprit, et ensuite... Il réintroduit l'esprit dans le corps, ça c'était quand même assez fort. Donc. Alors avec des feuilles de banane qui construit comme une sorte de cornet et tout ça. Et en même temps, il y avait dans les chants une explication pourquoi elle avait été emportée, cet esprit avait été emporté, quoi. Alors, l'histoire, c'était que la femme avait baisé quelque part dans un endroit où il fallait pas, quoi. Et peut-être même avec quelqu'un avec qui il ne fallait pas. Et cet endroit, je le connaissais, c'est au pied de Bugamieux, c'était une grande, très grande colline qui dominait le village, à 500-600 mètres commencé. Et on n'avait pas le droit d'y aller en général, parce que vivaient des esprits. Donc la femme avait dû baiser avec un gars du village. Donc tout le monde, ça sait, quoi, c'est comme chez nous, quoi, plus ou moins. Donc le type avait l'air très très fort, puisqu'il avait expliqué que sa maladie, c'est parce qu'elle avait baisé, l'un des esprits vivants à Bugamieux, pas très content, s'était emparé des jus vaginaux de la femme, hein, et s'était tiré avec. Et donc, c'est pour ça qu'elle était toute maigre et tout ça. Bon, alors, bon, la femme, on lui a remis l'esprit, là, dans le corps, si on peut dire. Et après, on nous a, chacun d'entre nous, on était une trentaine enfermés là-dedans, on nous a soignés. C'est-à-dire, c'est pas seulement une cure pour cette femme, qui était au centre quand même, mais chacun après a eu droit à un petit coup, quoi. Alors après, ils sont arrivés vers moi, j'étais assis par terre, et ils m'ont demandé de me mettre à genoux. Bon, ok. Retirer ma chemise, c'était une chemise militaire un peu comme ça, quoi, et de lever les bras. Et là, il y a deux ou trois, au moins deux chamans qui sont venus sur moi, avec des feuilles. Ils ont commencé à faire des cornets, tordre, là, les appliquer sur mon corps, et un peu comme des ventouses, hein, comme autrefois nos grands-mères, on mettait des verres, là, des peaux, là, tchou tchou. Et à un moment, ils ont tourné, et j'ai senti quelque chose sortir de moi, quoi. Bon, très bien. Ils me disent, maintenant, Maurice, ça va, Maurice est là. ça tu, ouais, tu vois, ben, j'étais pas bien, en effet, j'avais un énorme rhume, un truc comme ça, quoi. Et donc, voilà. Ben, je rentre à 3h du matin, enthousiaste d'avoir vécu un truc qu'on a dans les livres, hein. Le voyage de l'esprit, retour de l'âme et tout ça, donc j'avais droit à tout, à la totale, quoi. Plus j'avais été traité moi-même. Bon, très bien. Alors je vais dormir. Lendemain, 8h30. C'est pas trop de bruit dans le village, donc je me lève pour aller faire un tour. Et je vois dans la case du frère du grand chaman, je vois le gars qui est. Je le vois lui, c'était lui qui avait travaillé sur mon corps avec d'autres. Ils étaient tous en train de fumer un smoke, là, le matin, là. 8h, et manger une patate douce, et il m'appelle. Ah, Maurice, ça va, oui. Bon, tu te sens mieux aujourd'hui? Ah, ben, bien sûr. Et tu sais ce que t'avais? Mais tiens, je vais te faire voir ta maladie, là. Donc, le gars, il plonge sa main dans la cape d'écorce qu'il avait, et qui sert dans ce volume-là un peu de poche, hein, une poche arrière, et il sort un paquet. Un paquet de feuilles sèches, quoi, de feuilles. Et il ouvre doucement, et il montre ma maladie. Il dit, t'as vu, là? Et c'était un morceau de pierre, de silex. Il dit, t'as vu, hier, t'as senti? Je dis, oui, oui. Ben, c'est ça, toi qui es... T'avais, toi, ça dans le corps, donc on te l'a sorti, maintenant tu dois aller mieux, non? Je dis, oui. Et il dit, tu as bien vu cette pierre-là? On ne la trouve pas ici, hein? Cette pierre, c'est parce que tu es un blanc, tu vois, c'est... On t'a sorti une pierre. Très bien, bon, les gars, très bien, c'était très content, tu vois, ça faisait deux coups comme ça, la nuit plus le matin, c'était très bon pour un anthropologue, non, d'être... Après, quelques mois après, j'ai découvert que cette pierre, c'était du silex qu'on trouve à 3 jours de marche en haut de la montagne volcanique. Donc, ils avaient un petit peu, tu vois, ils avaient un peu construit, quoi. Mais j'étais bien pris dedans. Alors là, ça fait un coup, quand même, hein, de vivre ça. C'était ma première, une des premières soirées que après, j'ai vu. Bon, il y a beaucoup de moments d'émotion, c'est quand on prend les petits, là. Les petits, les mères arrivent. Est-ce que j'ai encore mon livre, La production des grands hommes, oui. Et les mères arrivent, elles sont avec les tantes et tout ça. Les sœurs, toutes sont habillées avec des capes neuves qui luisent et tout ça. Elles ont fait un effort de... Et il y a le petit qui va être pris, qui a 9 ans, là, un petit garçon, qui va être initié. Alors, toutes les mères arrivent. Et quand on prend le petit, et quand c'est un jeune homme qui arrive, super guerrier et tout, il arrache assez brutalement de la mère et de ses sœurs, et tout ça. Il le porte sur son dos, et tu as 2 lignes d'hommes adultes, là, complets, hein. Sur au moins 50 mètres, et ils portent des branches, des épineux et tout, et le jeune homme court avec le gamin sur le dos, et pish, on leur tape dessus, et quand ils arrivent au bout du tunnel, enfin, de cette... Ça pisse un peu le sang, quand même, hein, et le mec, il braille, le petit, il a peur, il pisse par terre, et là, on le met dans le monde des hommes. Et autrefois, d'ailleurs, avant que les Blancs n'arrivent, c'était plus dur. On lui tirait une flèche dans la cuisse, une autre, on les arrachait après, puis après. Donc le trauma, quand même, de sortir du vagin de la mère pour aller dans le vagin des hommes, si on peut dire, c'était quand même quelque chose. Alors moi, j'ai quand même vécu tout ça, quoi. Pas dans des formules peut-être aussi violentes qu'avant l'arrivée des Blancs, parce que la violence, la force, la résistance à la violence, ça faisait partie du quotidien, hein. C'était des gens qui faisaient la guerre tout le temps, et l'accent, c'est toujours sur être fort, etc., tu vois. Alors, donc, ça, c'était très intéressant de voir. Donc, il y a des grands moments, quand même, hein, dans la vie d'un ethnologue. Alors, donc, c'était cette photo-là, je pense qu'elle est dedans, là. c'est pas... Oui, voilà. On voit bien ici un homme qui est déjà assez âgé. C'est pas tout à fait un jeune homme, celui-là. C'est donc un type qui se présente comme un parrain chez nous, hein, qui porte l'enfant, et on voit les deux lignes de d'hommes qui... Alors ça, c'est... Bon, il y a énormément de moments. Les initiations, étant donné que c'est un grand spectacle, hein, c'est plein d'éléments dramatiques. Dramatiques, hein, c'est chargé au possible. Quand on perce le nez des gamins, c'est quelque chose. Quoi. Donc, on peut dire que... moi, c'était une anthropologie classique, quand même. Hein. Aller en Nouvelle-Guinée, c'est comme si j'avais été... en Amazonie, quoi. C'était des hauts lieux de, hein, pour les anthropologues. Donc, c'est très émouvant. Et puis on comprend aussi ce qu'ils veulent faire. On comprend quand même, hein, faire naître un homme en dehors du ventre des femmes, le faire renaître. Ça s'explique, hein, tout à fait, quoi. C'est pas obscur, quoi. Bon, chez nous, on prend d'autres procédés pour faire renaître les hommes. Alors là, après, il y a l'homosexualité quand même, qui est chez les Barouillas, qui est tout le monde, tous les petits, ils doivent y passer. Hein. Fellatio, etc. Alors là, c'est pas la disposition personnelle d'un gars qui est un peu tourné vers ça plutôt qu'autre chose. Tous les garçons doivent être homosexuels de 9 ans à 20 ans. Donc ça fait partie alors tout à fait de la construction de la virilité. C'est pas donc ça, faut pas projeter des catégories de la gay pride là-dessus, hein, c'est pas évident, quoi, c'est pas du tout ça, quoi. Alors tout ça, c'est la découverte de tous ces aspects d'une vie sociale, comment ils s'organisent, quel sens ils donnent. C'est le boulot, quoi. Et donc il y a beaucoup de moments forts, hein. Mais il faut pas rester 15 jours, hein. Faut rester longtemps, parce que des cérémonies d'initiation, d'abord, ils les font lorsqu'il n'y a pas de témoins. Hein, ils évitaient qu'il y ait des missionnaires dans le coin, qu'il y ait des militaires dans le coin. Moi, j'étais accepté, mais ils choisissaient leur timing pour que les Blancs sont à 3-4 jours de marche ou à 8 jours, etc. Bon. Après, j'ai vu aussi, parce que j'ai vécu beaucoup d'années là-bas, hein. Après, tu as le contraire, tu as autre chose, quoi. C'est que les types, après, ils dansent devant les touristes qui arrivent, hein. Il y a des sociétés américaines, australiennes, qui organisent des... Ils ont quelques Cessna, on met des vieilles américaines avec les cheveux mauves et tout ça, là, ça arrive du Mississippi ou je ne sais où, là. Et elles veulent voir des sauvages, hein. Alors elles ont 25 minutes de sauvage, hein, une heure d'avion, une demi-heure de sauvage, et on les ramène pour $400, tu vois. Alors là, les Barouillas sont très forts, là. Très très forts, parce que là, ils attendaient l'avion, ils ont mis leur costume du dimanche, c'est-à-dire les arcs, les flèches, ils attendaient que les femmes descendent, prennent des photos, et évidemment, hein, faut que ça paye, quoi. Alors là, une des plus belles blagues que j'ai vues, c'était formidable. Arrive un groupe d'Américaines typiques, quoi, avec un homme ou deux. En général, c'est plutôt le troisième âge qui arrive, tu vois, les voyages mondiaux, là. Et j'avais des copains qui étaient là, prêts à danser, tu vois, des jeunes gens. Là. C'était bien propre, bien net. J'avais deux os ici, deux os comme ça. Et moi, je savais ce que ça veut dire. Ça veut dire que au moment où on les initie du quatrième stade, normalement on met deux os de casoar pour indiquer qu'un homme face aux femmes doit lui faire des jardins, défricher la forêt pour qu'elle travaille, mais lui doit faire son boulot, quoi. C'est un peu plus compliqué parce que le casoar, c'est la femme sauvage que les hommes doivent dominer, mais bon. Alors arrivent les touristes américaines. J'étais là ce matin-là, vers 9h du matin, c'était super. Donc ils arrivent, les types font semblant de danser un petit peu, tu vois. Bon, alors ça met de l'ambiance. Et puis, aussitôt, les femmes arrivent, prennent des photos sous le nez. En plus, ils ont le nez percé avec des trucs. Alors, et après, en pidgin mélanésien, enfin, elle parle anglais à quelqu'un qui traduit en pidgin, qui traduit ensuite en barouya. Hein. Alors, parce qu'on leur avait donné, pour 400 dollars, ils avaient droit à des anthropophages. Voilà. 400 dollars par personne, il y a 20 ans, c'était... Tu avais le droit déjà des anthropophages, là. Alors, en plus, ils étaient anthropophages avant. Hein. C'est... Enfin, donc, arrive une femme qui dit... qu'est-ce que c'est que ces os, là? What are these bones, non? Traduit, le type répond pas. Donc, elle pensait que c'était des os humains que les types... Tu vois, c'était formidable, projection du fantasme. Bon... Après, donc, qu'est-ce que sont ces os? Répond pas le mec. Très bien. Et, can I buy? Le type, il répond pas non plus. Finalement, à 25 dollars, il lui file sa ceinture avec ses deux os, là. Après, quand ils étaient vachement contents, des os humains, ils repartaient sur les États-Unis avec des os humains. Putain, c'est magnifique. Quoi. Alors, donc, elles repartent, et après, je dis au copain, là, je dis, mais. C'était quoi tes os là? Il me dit arrête, c'était des os de poulet. Nous, on a tué des poulets, on les fait. Et on leur met maintenant des os de poulet, comme ça. On vend les. Alors, donc, les gars, ils avaient très bien fait des. Au lieu de mettre des os de casoar, ils avaient fait un substitut des os de poulet, tu vois. Et ils avaient découvert qu'on pouvait faire du vrai faux passeport, du vrai faux machin. Du... Et bon, j'ai apprécié beaucoup quand même. C'est comme ça. Ils font là ce que les Blancs attendent d'eux, quoi. Mais en plus, ça rapporte de l'argent. Alors, tous ces rapports, toutes ces choses qui apparaissent sous les yeux, c'est le monde moderne. Hein. C'est la marchandisation de beaucoup de choses. La culture devient des compagnies d'aviation, devient des agences de tourisme, et eux-mêmes sont un acteur important de ça. Pas très bien payé, hein. Bon, mais enfin, le gars qui avait tiré 25 dollars pour deux os de poulet, j'ai trouvé ça très. Alors, donc, on a des tas de moments et de tas de faits qui sont, si on veut réfléchir quand même, ça a un sens. C'est pas cryptique, hein. On n'est pas dans l'incompréhension. Compatibilité des cultures. D'ailleurs, il y a un postulat qui est complètement faux dans le postmodernisme. C'est l'idée que l'autre serait opaque, inaccessible. C'est pas vrai. Si tu vis 6 ans avec les gens, l'autre n'est pas. Il est relativement opaque. Il n'est jamais absolument opaque. Alors donc, c'est un des principes même de l'anthropologie. Quoi. Ou les sciences sociales, c'est que l'autre, on peut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va s'identifier avec lui. Je ne me suis pas mis des os sur... Hein, je n'ai pas essayé de danser comme les autres. Bien qu'ils m'aient initié, ils m'ont fait danser un peu. Bon. Mais je n'ai pas voulu... On ne peut pas vivre comme... Si tu veux vivre, il faut épouser une barouilla, il faut faire des enfants, puis après tu oublies, tu ne peux pas... Donc même les anthropologues, quand ils racontent l'observation participante, il faut leur demander à quoi ils ont participé, hein. Sérieusement. Sinon, c'est des propos qui font plaisir, quoi. Il y a des anthropologues qui jamais ne toucheraient à la Terre, parce qu'ils aiment les mythes, tu vois. Alors, moi, j'ai tout fait, alors bon. Enfin, bon, en effet. Mais ça plaisait aux barouillas. Hein. Ils trouvaient un peu étrange que je prenne des mesures de la distance entre deux pieds de patate. Ça leur semblait probablement d'une connerie épouvantable. Mais ils étaient contents que je sois avec eux des jours et des jours, les pieds dans la terre, dans la boue, qu'ils m'expliquent telle variété de patates, où c'est qu'ils l'ont prise, enfin ça vient des ancêtres, non pas celle-là, ça vient, on l'a emprunté chez les voisins, ce qu'ils l'avaient eu. Donc ils faisaient des cours en permanence, parce que en fait les gens passent leur vie comme nous, hein, ils font pas des rites... du matin au soir, hein, il bouffe, il travaille, il coupe des arbres, etc. Mais en même temps, il m'apprenait aussi qu'il fallait pas marcher n'importe où, au sens propre, dans les jardins, Non, pas simplement parce que tu écrases des plantes, mais parce qu'il y a des zones tabous. Ou bien ils ont foutu une plante là et toi, t'as pas vu. Non, tu marches dessus, on te fait engueuler, là, c'est pas possible. Tu n'as rien vu. Comment tu peux savoir que cette plante, est, à travers, c'était un tabou de... Bon, alors donc là, ils voient bien que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'ignorance. Et donc, à partir du moment où ils te corrigent, ils t'apprennent, quoi. C'est ça qui est super. Tous les jours, j'avais des séminaires permanents, quoi. Les vieilles qui m'expliquaient tout ça. Donc là, c'est là qu'on travaille, quoi. On travaille bien. Surtout que j'ai expliqué dans mon livre que les 6 premiers mois de mon terrain, j'ai merdé complètement. Je suis arrivé, je savais le pidgin mélanésien qui sert de langue, j'en savais une partie, parce que j'avais été dans un laboratoire de linguistique en Australie. Après, j'avais mon carnet pour apprendre les mots, mais il y avait un missionnaire australien, type très très bien, linguiste, mais donc du Summer Institute of Linguistics, le fameux institut américain qui est partout dans le monde pour apprendre les langues nouvelles et traduire la Bible dans toutes les langues non enregistrées. Ben, donc c'est un gars qui savait, bon, et qui m'a passé les éléments du dictionnaire qu'il est en train d'écrire. Ça, c'était quand même énorme, hein, de recevoir de l'aide comme ça. Donc après, j'ai parlé un mélange de Barouya et de pidgin mélanésien. Bon, je pouvais communiquer. Mais pendant les premiers mois, j'étais entouré de... J'étais du spectacle pour les gens. Hein. Un blanc qui est là, je m'étais installé... dans une petite hutte, le bord du chemin qui traversait la montagne pour aller dans l'autre vallée, sur un lieu de passage entre deux villages. Donc les gamins des villages, ils venaient me voir. Bon, c'était la télé pour eux. J'allais pisser, j'en avais 20 derrière moi. Je dormais, ils venaient voir un peu comment j'étais couché par terre et tout. C'est un peu du scoutisme, hein. Et puis, là, je leur demandais le nom de ton père, le nom de ta mère et tout. Je faisais des dessins de généalogie. Hein. Et au bout de 6 mois, quand ça allait un peu mieux, un jour, je me souviens, j'ai discuté avec Guataillé, un type tout ça qui allait devenir mon informateur. Il m'a dit, mais tout ça, c'est... S'il avait parlé français, il aurait dit, c'est tout ça, c'est de la merde. Tous les noms qu'on t'a donnés, ces gamins, ils savent pas même le nom de leur grand-père. Donc, c'est là qu'on voit aussi que... Alors celle-là, j'étais désespéré au bout de 6 mois. Je dis, bon, qu'est-ce que... On m'a pas payé le voyage et tout ça pour faire de la merde, quoi. Et donc, est-ce que je repars ou bien... Bon, ça me semblait idiot de repartir. C'est un désastre, quand même, non? C'est un échec. Alors donc, c'est là que j'ai eu ce déclic qui m'a sauvé, mais ça... J'ai dit, mais je vais... Moi qui me suis toujours intéressé à l'économie, hein, quand j'étais jeune, j'étais marxiste, l'économie allait m'expliquer beaucoup de choses. C'est vrai que les anthropologues ne s'intéressaient pas trop à l'économie, c'était toujours les rites et la parenté. Hein, c'est le gâteau, ça. Hein, bon. J'ai dit, tiens, je vais faire ça. Et c'est là que j'ai proposé aux gens d'être avec eux tous les jours, s'ils voulaient bien, dans leur jardin, pour qu'ils m'apprennent et que je mesure leur jardin. Et donc, je vous ai apporté la mesure, c'est très occidental ou très chinois aussi. Hein. C'est-à-dire des grandes civilisations mesurent les choses. Ça. Et donc, c'est là que j'étais sauvé, parce que tous les jours, j'étais dans la brousse, tout le temps, dans les jardins, dans la forêt, tout ça. Et il m'expliquait la qualité des sols, tu vois, là-dessus. Maurice, il me donnait d'ailleurs la typologie des sols, sols de surface et tout. Donc. Et là, ici, tu vois, tu peux faire du maïs, là, tu peux pas, tu vois. Donc ça, c'était très concret. Hein. Est-ce que c'était vérifié par la science? Alors pour voir si c'était vérifié par la science, j'ai pris des prélèvements, j'ai prélevé des échantillons de sol de surface, de sous-sol 1, 2, j'avais une bêche. Et après, j'ai joué au savant, j'ai envoyé ça en Australie, dans les laboratoires de l'université de Sydney, tout ça, où des botanistes, des... pédologues m'ont renvoyé ensuite la composition chimique, le pH, comme on appelle, de tous les sols que j'avais prélevés. Et je pouvais voir, avec des commentaires par des occidentaux, est-ce que c'est fertile ou pas fertile, et comment. Et ça, c'était pas si mal, les choix qu'ils faisaient. Hein. Ils mettaient pas du maïs n'importe où, hein, et tout ça. Donc on avait un certain accord. On voyait les choix qui étaient faits. Bon, en même temps, il peut y avoir des choix qui sont faits pour des raisons entièrement idéologiques, du genre, mon ancêtre est passé par là, donc son pied lui a donné de la fertilité. Bon, c'est comme ça, c'est partout pareil d'ailleurs. Et donc, c'est intéressant. Donc, c'est là que j'ai sauvé le navire, complètement. Pendant 6 mois, j'étais dehors tous les jours, je fais des cartes. Hein. J'avais appris avant de partir, j'avais été... Ayant une idée de tout ce travail que j'allais faire, j'ai été parti à l'École nationale de géographie. Et j'avais demandé qu'on m'apprenne à cartographier avec boussole et tout ça. Mesurer des pentes, transformer des pentes en distance horizontale, tout ça, pour faire une carte, quoi. Et donc heureusement que je m'étais préparé à tout ça d'ailleurs. Et alors là, toute la journée, quand vous êtes, bon, les gens, ils vous donnent à boire, à manger, parce qu'ils mangent en travaillant. Hein. Ils ont pas 3 repas par jour. C'est le matin, tu démarres, et tu remanges le soir. Mais ils ont pris une patate douce avec eux, donc ils t'en donnent un morceau. Le moment, tu fumes un clope, et on discute. Ah oui, tu sais, cette terre, c'est mon arrière-grand-père. Juste avant qu'il soit tué par les voisins, là. Alors, donc tu ramasses tout, quoi. Tu ramasses des tas de trucs. Et ils sont assez contents, hein, parce que tu es dans leur même contexte, le même contexte qu'eux. Donc à partir de 6 mois, j'avais tout, j'avais des masses d'informations sur tout, sur la magie des jardins, sur le maïs, sur les gars qui étaient assassinés, qui a été ensuite tué en payback. Et donc c'était vraiment le bon choix. D'autres auraient pu prendre un autre choix, enfin, je ne sais pas. Et après, je pouvais enfiler les perles. À partir du moment où j'ai fait ça avec des gens, j'ai découvert la femme qu'il fallait interroger sur la parenté, parce que les femmes connaissent les naissances des autres femmes et tout ça. Donc j'ai trouvé l'informatrice remarquable, Gérinac. Une vieille mais très active qui m'a expliqué qui avait épousé qui avait donné une fille, pourquoi et tout ça. Donc, et ensuite, avec des hommes, j'ai pu travailler sur la guerre où c'est pareil, tu as tué, tout ça. Donc la réciprocité négative, de l'autre côté la réciprocité positive. Tu donnes des femmes contre des femmes, de l'autre côté tu tues contre la mort. Donc après c'était une question de... C'est ça qu'il faut apprendre. C'est une question de temps. Hein, il faut avoir beaucoup de temps. Il ne faut pas vouloir partir pour 8 jours, bien entendu. Et ensuite, il faut faire des enquêtes. Ce n'est pas toujours possible. Moi, ça a été possible. Assez systématique. C'est-à-dire, pendant 6 mois, tu fais les généalogies. 6 mois, 8 mois. Tu vas de maison en maison, de village en village. En même temps... on s'aperçoit tout de suite quand on a fait la généalogie d'un village dont la moitié des femmes viennent des autres villages. Si tu as fait la fiche généalogique d'une femme du village d'à côté, quand tu arrives dans le village d'à côté, tu as déjà fait la moitié de la population d'à côté. Et ça les surprenait beaucoup, parce que comme j'avais un système de fiches que j'avais créé, j'arrivais dans un village que je connaissais personne, on prononçait un nom, boum, je sortais la fiche, oh, tiens, ton grand-père était... Il pensait que j'étais un peu magicien quand même, non ? Mais après, mes informateurs qui étaient avec moi, on partait ensemble pendant un mois, tout ça. Ils leur expliquaient, ouais, Maurice, il fait ça tout le temps. C'était bien, parce qu'ils disaient, oh, nous, on s'en fout, on ne sait même pas le nom de mon grand-père. Attends, on va te trouver le nom de ton grand-père. C'était pas moi qui l'avais, c'était la vieille Gérina qui avait la mémoire extraordinaire, une femme qui pouvait... C'est là qu'eux n'ont pas l'écriture, mais alors la tête qui fonctionne pour toutes les relations sociales enregistrées dans des petits mondes, mais Nous, on n'a pas tout ça. Hein. On a un monde très étroit, quand même, de rapports sociaux, quoi. Tandis que là, c'est... ils arrivent à donner les relations entre 600 personnes. C'est computer. Hein. Derrière toi, tu as 5000 fiches généalogie. Tu vois, tous les barouillas sont derrière toi. Chacun a sa fiche. Et un jour, je devrais mettre tout ça, si j'ai le temps. Alors, une enquête sur la parenté qu'on conduit en même temps qu'une enquête démographique. Qui vit avec qui et qui habite. Donc, tu fais un dessin grossier d'une maison et qui habite. Mais qui est à côté? Qui est à côté, là? Après, tu regardes dans les jardins qui a travaillé avec qui dans le jardin. Quand tu fais ça systématiquement, c'est ce que je dis quand j'entends des gars qui nous rigolent que l'anthropologie c'est du baratin, je veux bien, mais il y a certainement beaucoup de baratineurs parmi les anthropologues, hein. Mais quand tu fais ça pendant des années systématiquement, les enquêtes se recoupent, hein. C'est ce que tu savais pas au début, tu le sais à la fin quelque part. Seulement, il ne faut pas rester 8 jours, il faut pas rester même un an. Moi, c'était 7 ans, hein. En plusieurs fois, mais quand même. J'ai refait 2 fois le mapping, la cartographie de tous les jardins du même village, à plusieurs années de différence. Putain, c'est effrayant. Après, à chaque fois qu'il y a un enfant qui naissait, bien sûr, je faisais. Et puis, il y en a qui mourait, etc. Et après, j'ai eu la chance quand même de voir au moins 2 fois les initiations masculines, qui durent quand même quelques semaines. Et j'ai été invité 2 fois à des initiations féminines. Donc tu vois si c'est la même séquence ou c'est pas, etc. Tu vois. Alors quand tu as tout ça, tous ces énormes dossiers qui s'accumulent, et que tu commences à comprendre un peu les autres quand même. Je suis pas sûr que tu puisses déduire, par exemple, j'ai pu une fois ou deux, c'était magnifique, dans une cérémonie d'initiation des chamans qui se fait tous les 18 ans, j'ai eu du pot de pouvoir l'avoir parce que il n'y a pas de raison de rester 18 ans sur le terrain. Le missionnaire m'avait fait savoir que ça allait se passer. Et les barouillas lui ont dit de m'appeler quand ça allait se passer. Barouilla qui téléphone à l'anthropologue de service, et, attention, il y a des trucs que t'as pas vu, là, il faudrait mieux que tu tapes. Alors donc j'arrive, très heureux de voir ce truc quand même, hein. C'était très impressionnant de voir les initiations de chaman. Bon, parce que là, il y a les femmes avec les hommes. Qui est très très rare, parce que autrement c'est des initiations séparées. Et un jour, c'est là que ça a été très intéressant. Je suis avec les chamans, les maîtres de chamans qui vont initier des nouveaux chamans. De nouveau, je suis dans une grande case, dans le noir. On fait le noir. Et je connaissais des mythes importants, ce qu'on appelle nous des mythes, quoi, des choses importantes. Je savais par exemple que deux femmes barouillas avaient été offertes au serpent Python et que le serpent Python c'était en fait le dieu de la pluie et des règles des femmes, l'humide. Ça, bon, très bien. Et que les deux femmes qui avaient été offertes s'étaient transformées en Vénus, l'étoile du matin et du soir. Donc j'étais dans le corpus barouilla quand même, je pouvais comprendre quelques petites choses. Quoi. Et je suis là, dans cette cérémonie, et tu peux pas prendre de notes. Tu peux pas filmer, t'as pas le droit. Introduire la lumière là où ils me font l'obscurité. C'est la gueule. Moi, Dunlop a voulu faire ça en pleine grande initiation. La nuit, il a commencé à ouvrir un flash pour prendre les jeunes initiés dans la nuit, là, les gars, ils lui ont sauté dessus. Hein. Je lui ai dit, tu t'arrêtes tout de suite, là. Tant pis pour toi, cinéaste. Hein. Bon, ça, c'est pas possible. Peut-être avec des techniques modernes, tu pourrais y arriver, mais il faut pas que ça filtre la lumière, en passant. Donc, je vois les gars qui sont là, à nouveau, ils tournent, ils sont assis au côté du feu, le feu est éteint, ils commencent à chanter. Et d'un seul coup, deux, trois chamans plongent un geste abstrait vers le feu éteint. Bon, je ne peux rien faire, je marque « plonge vers le feu éteint ». Tu vois, dans le noir en plus. Putain, pour lire tes notes après, c'est incroyable, parce que tu ne vois pas ce que tu fais du tout. Tu mets des trucs, c'est que... Et, quelques 15 jours après, il faut laisser les rites se faire. Tu ne vas pas interrompre les gens pendant leur rite pour leur dire, dites-moi ce que vous venez de faire, ça va. C'est... Donc, 15 jours après, tranquillement, tu vas avec les gens, ta mémoire plus tes notes, leur demander ce qu'ils faisaient. Parce que tu ne comprends pas ce qu'ils font. C'est des pratiques symboliques. Et alors là, je suis avec deux des chamans qui sont là à fumer un clope avec moi, là. Oui, oui, on va t'expliquer, Maurice, bien sûr. Et alors, à un moment, j'ai dit, mais attendez, ça, c'était très intéressant. À ce moment-là, là, vous étiez là, hop, vous avez plongé vers le foyer éteint. Mais qu'est-ce que c'était, votre truc, là? Je vois les gars qui se regardent. Il y en a un qui dit à l'autre, dit, on lui dit ou quoi, là? Et il commence à dire c'est donc le nom, en fait c'était Vénus, c'était le nom de l'étoile. Donc tout de suite je dis, ah, dites-moi, vous parlez pas de l'histoire des deux femmes qui ont été offertes au serpent Python, là? Donc là il savait que je savais, quoi. Ben, c'est vraiment un des coups de peau que j'ai pu faire l'enchaînement. Hein. Faut vraiment. Alors là, ils ont commencé à me raconter, en effet, que. C'est là que j'ai appris un truc. Mais qui est très important. C'était. Que Vénus. Son pouvoir se retrouvait dans une hache de pierre, une. Qui se trouve dans les objets sacrés. Bon. Donc Vénus, c'était ça. C'était deux femmes qui étaient montées. Là, je connaissais le mythe, on me l'avait expliqué. Donc, c'est une histoire assez compliquée, mais ce serpent apparaît. Non, ce serpent au départ était un cochon sauvage, énorme, qui dévorait les jardins, qui détruisait tout. Et donc, les Barouillas sont venus et l'ont tué, paraît-il. Une cinquantaine d'hommes ont tiré dessus. Et donc, ils l'ont ramené au village, un monstre. Ils l'ont découpé en tranches, comme on fait, pour le faire cuire la nuit. Et puis, ils ont partagé les morceaux entre toutes les familles. Seulement, le lendemain matin, il n'y avait plus de morceaux. Et ils ont retrouvé dans le champ le monstre qui s'était reconstitué, tu vois. Bon, c'est ben super, non? Donc là, et en plus, le monstre s'est transformé en un serpent gigantesque, un python, quoi. Super python, quoi. Alors donc, ils étaient affolés. Ils te racontent ça comme si tu étais, hein. Donc, affolés. Il lui offre, la population arrive, il lui offre des patates douces, des trucs, quoi. Enfin, des patates douces, des tarots, là. Le serpent fer, pas intéressé du tout, là. Ensuite, ils arrivent pour lui offrir des plumes d'oiseaux de paradis, des coquillages, enfin. Il bouge pas, là. Et à la fin, ils amènent deux femmes. Alors là, elle est très intéressée, là. Et donc, de femmes. Alors, et les femmes doivent partir avec le serpent au ciel. Alors là, l'histoire raconte que l'une des deux femmes était plus rapide de tête que l'autre. Avant de partir avec le monsieur, là, elle s'est emparée d'une ou deux pierres chaudes, puisqu'ils font cuire avec des pierres, hein, autrefois maintenant. Et elle a mis ces pierres brûlantes, comme on fait des fours en Polynésie, en Indonésie, dans son sac. Elle est montée avec le serpent, et le serpent lui a dit, il y avait une grande maison là, et le serpent lui a dit d'entrer. La première a dit, non, c'est toi, c'est ta maison. Donc le serpent est entré, a fait le tour à l'intérieur, et son nez, sa bouche se sont présentées à la porte. Et là, elle lui a mis la pierre chaude sur la gueule. Et d'où il a gueulé, et ça fait le tonnerre. Et en plus, il a pissé, ça a fait la pluie. Donc les serpents pitons contrôlent et le tonnerre et la pluie, non ? Et même l'arc-en-ciel, qui sont les lumières qui apparaissent dans certaines pluies. Et les deux femmes se sont transformées en Vénus, qui précède ou qui suit le soleil. Alors, après, il faut savoir qui est le soleil, tout ça. C'est pour ça que, quand même, quand tu fais ton boulot et que tu as des gens qui veulent t'initier, quoi, à leur culture, ils le font, quand même. T'apprends quelque chose. Tu ne deviens pas barouille à toi-même, bien sûr, mais tu peux anticiper déjà quelque chose de leur comportement, quand même, que pourquoi ils font ça et ça. Donc c'est des grands moments tout ça, quand tu as des choses pareilles, c'est des très grands moments, ça fait plaisir, le métier rentre, quoi. Donc, voilà un peu les richesses qu'on découvre, quoi. Ah oui, quelques autres, mais pas beaucoup. Mais celles-là sont chargées, puisque... Alors, par exemple, il y a des étoiles. Moi, je n'ai pas fait un luminaire, hein. Je n'ai pas fait un dictionnaire de ce qu'ils savent, parce que j'en ai fait déjà les plantes cultivées, les plantes sauvages, tout ça, j'en ai... Mais ce qui les intéressait, c'était surtout... Il y avait des astres autour du soleil, et surtout la lune. Bon, c'est ça qui est... Et parce que c'était... Certains des morts allaient vers ces astres et d'autres morts allaient sous terre. Les uns étaient au-dessus de la terre, les autres sous terre. Alors, imaginez ce qui s'est passé le jour où ma femme m'a envoyé les paris match de « J'ai marché sur la lune hein, » du russe, là. Donc, moi, j'étais vachement intéressé, j'étais sur le terrain et tout, là. Les paris match arrivent, les gars me demandent, mais dis-moi, c'est quoi ça? Ben, je dis, c'est des hommes. Mais en plus, c'est pas possible, parce qu'ils étaient dans des scaphandres. Donc, ça a une forme humaine, mais c'était quand même monstrueux, quand même. Non ah, là. Ils disent, mais c'est quoi ça? Ben, c'est des hommes, des Américains, ou des Russes. Là, c'était des Russes. Un Russe. Ils savent pas ce que c'est qu'un Russe, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur la Lune. Il dit, ça va pas, non? Marcher sur la Lune. Alors que c'est là l'endroit des morts, que moi je suis initié, donc je sais que la Lune, pour les femmes et pour les non-initiés, quoi, c'est une femme. Mais pour moi qui suis initié, c'est le frère cadet du Soleil. Donc c'est masculin. Alors comment tu peux marcher sur la Lune? Très difficile d'expliquer tout ça, hein. c'est pas... Ah oui, mais comment vous êtes partis là-bas, les Blancs, là-bas? Allez, va expliquer l'énergie atomique ou n'importe quelle forme d'énergie qui permet de pousser, les poussées qui permettent d'aller jusque-là, c'est assez compliqué. En France, d'ailleurs, je ne saurais même pas l'expliquer, je n'ai aucune compétence. Et ensuite, le traduire dans une langue étrangère, c'est encore mieux, non? Donc finalement, pour eux, c'était encore un truc des blancs, quoi. C'est la super magie, quoi. On est fort, quoi. Alors plus tard, d'ailleurs, plus tard, 2 ans plus tard, je pense. J'étais parti à Port-Moresby avec le maître des initiations des chamans, qui est sur la photo là. Et là, un soir, il a voulu m'expliquer l'origine de tout le monde, hein, de choses. Et donc il m'a pris à part, avec Jean-Luc Laurie qui était avec moi sur le terrain à ce moment-là, pour m'expliquer comment le monde était devenu le monde, quoi. Mais à la fin, je me souviens très bien qu'à la fin, ça n'a pas duré tellement longtemps, les Baroya appellent pas ça mythe, bien sûr, c'est pas des mythes pour eux, hein, c'est l'évangile. Donc, ils appellent ça les paroles brèves. Tu dis la vérité en paroles brèves, c'est mieux que des bavards, tu vois. En 20 minutes, il m'a expliqué l'origine du monde et tout, hein, ça y est. Et à la fin, qu'est-ce qu'il m'a demandé ? Tu me dis comment les blancs sont arrivés dans la lune ? Je pouvais pas, moi, rien à lui sortir d'aussi beau, quand même, non ? On avait fait un troc, quoi. Il me donne le secret des Baroya, il faut que je file le secret des blancs, quoi. Ouais, c'est pas comme ça. J'ai vraiment été un foutu, quoi. Ben, c'est comme ça. Probablement, j'ai renforcé, sans le vouloir, mais j'étais incapable, l'idée qu'on a des magies plus puissantes, les blancs, quoi. Il n'a pas compris ça comme si c'était l'évolution des technologies et du savoir scientifique. C'est qu'on avait... je lui ai dit, d'ailleurs, moi, je suis incapable, mon clan aussi. On ne peut rien faire, c'est d'autres blancs que moi. Moi, je ne sais rien là-dessus. Alors donc, ça ne peut faire que renforcer l'idée que moi, j'étais pas dans le bon côté parmi les blancs, mais qu'il y avait quelque part des blancs qui avaient le secret. Mais moi, j'étais incapable. Tu vois, c'est très intéressant, non ? Mais on peut pas communiquer là-dessus, tu peux pas. Tu peux expliquer, mais ça veut pas dire qu'ils comprennent. Et eux aussi, d'ailleurs, il y a des moments où je comprends pas, quoi. Ça veut pas dire que ça peut pas être compréhensible, hein. Certainement. Ce que l'humanité a inventé, ce que je vais te dire est extrêmement audacieux, mais ce que l'humanité a inventé, je sais pas, le Dreaming Time des aborigènes australiens, ou le marxisme, ou je sais pas quoi, ou le bouddhisme du grand véhicule, ce que l'humanité a inventé, d'autres hommes peuvent le comprendre. Il faut partir de là. Comment le comprendre, comment reconstituer tout ça, c'est compliqué, mais bon, c'est quand même toujours des inventions humaines, hein. C'est pas une inspiration divine, hein. C'est des mecs qui élaborent des univers très complexes pour interpréter ce qui se passe autour d'eux, ce qui se passe en eux d'ailleurs. Bon, c'est pas inintelligible, quoi. C'est ça qui détruit. C'est ce que je viens de te dire, ça détruit à la racine le postulat du relativisme absolu. Qu'il y ait des différences, on le comprend. Mais qu'elles soient incompréhensibles, pourquoi ? Il faudrait que chacun ait reçu la révélation d'un Dieu différent, tu vois. C'est pas la tour de Babel, l'humanité. D'autant que quand tu as fréquenté quelques tribus, et même ta propre société, tu vois qu'il y a des... Ce que tu découvres, c'est que les processus existent, les mêmes processus, pour occulter des choses, pour s'interpréter. Pour grandir les hommes au détriment des femmes, ça existe chez nous, hein. Bon. Donc, les processus sont en opération, mais le phrasé, etc., est différent. Mais ce qui n'est pas différent, c'est le processus. Si tu dois dominer les femmes, il faut inventer des tas de trucs qui les canalisent. Il faut inventer la différence. C'est pas une différence du zizi et du vagin, c'est une différence que les femmes peuvent pas faire ceci, que nous on peut faire cela, etc. Donc la moitié de ces choses sont complètement imaginaires. Et donc c'est là que tu vois les enjeux, c'est que l'imaginaire, après, quand tu as des mondes imaginaires, il faut qu'ils soient visibles. Alors c'est les rites. Les rites, c'est mettre en musique et en scène constamment l'invisible. Hein. Donc après, tu y crois dur comme fer, le masque est là, l'esprit est là. Donc la pratique symbolique, tout ça. Quand tu sais ça, ben, tu peux aller n'importe où. Il y a des pratiques symboliques chez nous. Comme... Évidemment, ce n'est pas les mêmes pratiques, mais il faut de la pratique symbolique. Ce n'est pas le même imaginaire, mais il faut de l'imaginaire pour construire des rapports sociaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a un élément scientifique dans l'anthropologie ou dans l'histoire. Ce n'est pas, des contes à dormir debout, quoi. Alors ça, c'est important, tu vois. Ça, c'est... L'autre n'est pas opaque, absolument, mais en partie quand même. Alors ça demande du temps pour ouvrir l'oignon et les pelures d'oignon, hein, ça demande du temps. Elle va prendre beaucoup de temps, là, tu vois. La plupart du temps... On ne te cache pas. C'est toi qui ne comprends pas. Moi, je me souviens plusieurs fois, les barouillas sont énervés. Mais on t'a déjà dit ça 10 fois, tu comprends rien, quoi. C'est vrai qu'il avait dû me dire. C'est un jour, j'ai pu comprendre ce qu'il m'avait dit, quand même. Mais il m'avait déjà dit, donc là, il ne voulait pas cacher. Seulement, moi, j'arrivais pas à mettre les fils, quoi. Et il m'engueulait, il dit, mais quoi, on t'a déjà dit ça, quoi, 3, 10 fois, là, tu comprends rien, quoi. Alors ça, ça veut dire que là, toi, t'es loin, faut y aller, faut comprendre, faut travailler, quoi. Maintenant, il y a des choses qui m'ont pas fait voir. C'est leur choix. Quand j'ai été quand même dans les initiations féminines, ce qui est un privilège exceptionnel. Je suis le seul homme qui a été voir comment les femmes étaient initiées, quand même. Ben, les femmes se sont quand même arrangées après m'avoir accepté... de façon extraordinaire, elles sont quand même arrangées le matin à 6h pour que je ne vois pas quand les petites se lavaient le sexe. Hein. Ce n'est pas une question de pudeur, je pense. Hein. Je ne pense pas. Mais bon, il y a toutes les petites là qui avaient leurs règles, les jeunes filles, elles étaient parties discrètement. On m'avait retenu pour arriver en retard. Quand je suis arrivé, c'était fini pratiquement ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qui s'était passé, j'en sais rien. J'ai retrouvé les petites, elles étaient dans l'eau, c'est très important, plongées dans l'eau, recouvertes de feuillage, comme une sorte de grand tas. Ok, mais bon, et c'est tout. Après, elles sont éclatées, là, jaillies de ça, elles sont tirées, en vrai. Bon, les femmes avaient tout fait pour que j'arrive justement au moment où c'était fini, quoi. Bon, et puis après, elles ne m'ont jamais expliqué ce que c'était, quoi. Donc il y a les deux, hein, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on te montre pourtant, qu'on te dit, et puis il y a les choses qu'on ne veut pas te dire, qu'on ne veut pas te montrer. Bon, ben, ça, tant pis, hein. Tu ne vas pas faire des fictions pour boucher les trous, hein. D'abord, je ne pouvais pas imaginer que les femmes viendraient me chercher pour une initiation. J'avais demandé ça pendant 2 ans, 2 ans et demi, au moins. C'était impensable. Je faisais mon boulot de demander. Nous, on est quand même des voyeurs, on veut être partout, quoi. Mais théoriquement, c'est impensable qu'un homme soit là, quand une fille a ses règles. Partir dans l'espace féminin, c'était... Alors, je ne le savais pas. Bon, c'est une petite qui s'appelait... Yves Rembaïga, que je connaissais bien, 14 ans, 15 ans, tout ça, très déluré, très... Boum. Elle a ses règles. Donc, aussitôt, elle est emmenée en bas du village, dans l'espace menstruel, quoi. C'est au bord de... C'est un espace extrêmement pollué, hein, parce que le sang menstruel pollue tout le reste. Et puis c'est là aussi que les femmes accouchent leurs enfants, donc c'est là où on va enterrer le placenta et tout ça, tu vois. Bon, la petite, elle part, on lui construit, ses copines, peut-être sa mère, mais ses copines et elle-même, une hutte menstruelle dans laquelle elle va être enfermée pendant un certain temps. Hein. Bon, là, elle passe par le jeûne, elle n'a pas le droit de bouffer, de boire et tout ça, donc quelques petits efforts physiques quand même, parce que elle va changer de statut quand même. Hein. C'est là aussi où, pendant qu'elle va être là, pendant 15 jours, 3 semaines, son fiancé et le clan de son fiancé, son frère, ses frères, vont aller chasser et vont lui apporter de loin, parce qu'on n'a pas le droit de pénétrer dans cet espace, ça doit être des femmes qui vont faire le transport, du gibier pour qu'elle bouffe, et surtout les cadeaux de fiancé, si on peut dire, des capes neuves, des trucs comme ça. Bon, c'est là que se pose le problème. Ça, je savais que si elle accepte, c'est bien, si elle n'accepte pas, elle rompt. Donc les femmes, malgré qu'elles soient très dominées chez les barouillas, elles ont une chance. On les a mariées petites, et si elles n'aiment pas le gars, elles ont le droit de refuser. Mais elles foutent une merde épouvantable. Si elles refusent leur fiancé, à ce moment-là, leur frère n'aura pas droit à la sœur de leur fiancé, puisque c'est un échange direct. Guinamare. Donc, une fille qui fait ça, elle rompt le mariage, le sien, et elle empêche le mariage de son frère. Donc, il faut avoir du courage, hein, parce qu'après, elle ne va pas être félicitée. Hein. Bon, enfin, il y a des procédures qui... Parce que, bon, ça veut dire aussi qu'elle a un type dans la tête, quoi. C'est pas tellement différent là-dessus, hein. Il faut avoir du courage d'aller contre un choix collectif. Alors après, bon, si les familles acceptent je ne dirais pas ce déshonneur, mais enfin cette rupture, bon, ben la fille va épouser probablement celui qu'elle veut. Et puis, si celui qu'elle veut a une sœur, ben c'est la sœur de celui qu'elle veut qui va être donnée à sa place. Et donc son frère va se marier quand même. Bon, mais faut passer par des troubles, des rapports entre les alliés qui explosent et tout ça. Bon. Donc la fille, bon, très bien. Alors, je dis, à la fin, moi, la petite était là, j'avais déjà fait un coup, j'avais les Yablonco qui étaient là. Les Yablonco étaient là, alors il y avait la femme et l'homme, Marek. Je dis à Marek, écoutez, je vais faire quelque chose demain, je vais partir avec des jeunes gens, je vais aller visiter Mbaïgak. Donc je vais descendre vers l'espace féminin, mettez-vous avec votre caméra, la même, tout en haut de la colline, et vous allez voir ce qui va se passer, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, le gars s'installe avec son trépied et tout, là, il ne bouge pas, il se met en haut d'une colline, puis moi je descends la colline vers le bord de la rivière où il y avait la zone féminine. Et je pars avec des jeunes gens, des gens qui avaient 17, 20 ans, quoi, des monguignés, c'est-à-dire quatrième stade d'initiation, les gars, ils ont le droit de se balader, tout ça. Et j'arrive, je descends. Donc le film, le type, il m'a filmé descendant. Hein. Et d'un seul coup, c'est passé un incident. Quand j'arrive à une certaine distance, les gars à côté de moi commencent à devenir hystériques. Ah, arrête, Maurice, où tu vas là? Ben, je dis, je vais voir la petite là. Mais ça va, arrête. Ils commencent à gesticuler. Mais comme vraiment hystériques. Hein. C'est-à-dire les jambes se secouer et tout. Là. Puis ils se tirent en courant. Donc moi, je continue mon chemin. J'arrive dans l'espace féminin. Bon, la petite était très contente. Bonjour, Maurice, ça va bien? Un peu étonné quand même. Bon. Les filles qui étaient là, des petites gamines, tout ça, on fume un coup, tout ça, quoi. Bon, puis après, je vois un peu comment elle était installée, tout ça. Qu'est-ce qu'elle avait reçu comme cadeau, bon, puis je repars, bon. Mais j'ai pas eu l'incident, là. J'ai eu cet incident-là, mais j'ai pas eu rien contre moi. Et deux, trois, et huit, quelques jours après, quand la fille doit passer par les grandes cérémonies de la nuit et tout ça, c'est le grand truc, là, le showbiz, là, parce que c'est 600 femmes qui sont autour d'elle, grand spectacle. Hein. À minuit, deux vieilles, celle qui avait travaillé sur les généalogies avec moi, Jirinak et une autre, viennent me trouver. Maurice, tu viens avec nous. Ah bon? Oui, oui, c'est les cérémonies pour... tu viens avec nous. Alors, évidemment, je prends une couverture, il fait froid la nuit, hein, à 3000 mètres, 2000 mètres, même à 3 degrés de l'équateur, c'est... Bon, j'étais vraiment étonné, hein, et heureux, parce que je n'y croyais pas, quoi. Et alors là, j'ai vécu pendant toute la nuit, une journée, tout ça, avec toutes les femmes, et j'ai vu un peu ce qui se passait, avec aussi, le lendemain matin, qu'on m'a un peu retardé, quoi, sur la route. Mais après, c'est donc étonnement de pouvoir y aller, et quand même à une certaine satisfaction quand même d'être invité, mais elle-même violait les règles. Hein. Et finalement, je pense qu'elle voulait être... elle voulait... il n'y a pas de raison qu'avec les hommes, dans leurs initiations, qu'ils aient un anthropologue, quoi. C'est les vieilles qui sont venues, ben, je voulais leur anthropologue témoigner, comme je suis sûr de ça. Ben, c'est pas moi qui aurais imposé, hein, je ne pouvais rien faire, moi. Et ça, c'est ça qui est intéressant, faut pas croire. On n'est pas le chien occidental automatiquement et tout ça. En plus, moi, ils savaient très bien que j'étais pas missionnaire. Hein, mes relations avec les missionnaires n'étaient pas extrêmement chaudes. Et donc, le tour, c'était le retour. Là. C'était deux jours après, quand je suis rentré. Là. Toutes les femmes se dispersent. Elles sont réattaquées par les jeunes, d'ailleurs. Ça, j'ai assisté à ça. Donc, les jeunes filles sont attaquées par des jeunes gens et qui les tapent avec des épineux, un peu comme on fait pour les gamins, là. Voilà. Et elles sont même insultées. Hein, disons. Et après, on rentre dans les villages avec les femmes pour bouffer, quoi, pour faire... Et les villages étaient complètement vides. Moi, j'étais crevé. Donc, je rentre chez moi pour dormir. Et bon, il était 4 heures l'après-midi, je sais pas quoi. Et c'est là qu'à un moment, deux jeunes viennent m'appeler, là, me faire sortir de la maison, là, et c'était des Giravenia, puis Kumbaineu, des jeunes qui travaillaient avec moi tout le temps, quoi. Ils disent, Maurice, on vient te dire qu'il faut que tu partes maintenant. Les hommes sont pas très contents de ce que tu as fait, là, d'aller chez les femmes. Faudrait mieux, enfin, tu vois, je parle comme l'autre, là-bas, Georges Marché, faudrait mieux que tu fasses ta valise, là. Bon, j'ai dit, bon, tant pis, hein, j'ai joué le jeu, mais... Je peux pas. J'ai tenté de voir ce que faisaient les femmes. Bon, maintenant je vais payer pour ça, donc je commence à plomber un peu là. Hein. Pas marrant. Hein. Vrai que c'est comme ça. C'est... Puis après, à un moment, il oublie. Mais attends, il faut. Ça, si tu veux te soumettre à un rituel, tu vas peut-être pouvoir rester avec nous là. Ah ben je dis oui, d'accord. Alors, dis qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vas dormir. Et on t'appellera tout à l'heure. Donc je repars, peut-être je dors ou je dors pas, parce que c'était quand même une menace. Hein. Ça pesait lourd, là, de faire ma valise le lendemain. Enfin, faire ma valise, c'est-à-dire mon sac. Bon. Et quelques heures après, ou je ne sais plus, deux heures après, je vois les deux gars arriver, et avec deux oiseaux qu'ils avaient tués dans la forêt, m'appellent. Maurice, déshabille-toi. Bon, je me fous de la poêle. Et alors, ils ont brûlé, comme chez nous, quand on a un poulet qu'on a acheté au marché, ça sent fort, hein. On brûle sur... Là, c'était toutes les plumes, c'était pas le duvet qui restait, là. Ils ont brûlé, tout le long de mon corps, les oiseaux. Alors, ça sent fort, hein. Et, bien sûr... Il passait surtout sous mes aisselles, le long de mon sexe, etc. Bon, après quand ils m'ont bien enfumé comme ça, tu vois, on dit tu peux aller dormir maintenant. Ouais, tu peux rester avec nous maintenant. Ah bah tant mieux. tant mieux. Mais je ne savais pas ce qu'ils avaient fait. Hein. Et c'est quelques mois plus tard que j'ai compris ce qu'ils avaient fait. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Quelques mois plus tard, par le hasard de je ne sais quelle question. Parce qu'en fait, les gars, ils t'en diraient plus si tu posais les bonnes questions. Mais souvent, tu ne sais pas poser les questions. Et tu ne peux poser les questions que si tu sais les réponses. T'es coincé quand même, non, quelque part. Non, c'est ça qui est très intéressant. Pour quelle raison, je ne sais pas, je découvre que quand une femme a accouché, son mari, avant, elle reste donc à la maison d'accouchement avec son bébé, et le jour où elle va revenir vivre avec son homme, son mari doit aller à la chasse et déposer un ou deux oiseaux sur la planche du seuil de la maison, quoi, de la case. Et à ce moment-là, quand la femme remonte avec le bébé, elle s'auto-enfume. Elle brûle. Et elle se dépollue avant de reprendre la vie avec un homme. Donc les mecs avaient été géniaux, quoi. Ils m'avaient traité comme une femme, puisque j'étais passé de l'autre côté, là. Et quand une femme doit reprendre, après avoir fait toutes ces saloperies, hein, parce qu'ils disaient que les femmes, tu te rends compte, hein, tu sais bien que... Qu'est-ce que tu as vu chez les femmes? Je dis, arrêtez, hein, ouais. Quand je vais chez vous, je ne raconte pas aux femmes. Alors, quand je vais chez les femmes, je ne vous raconte pas à vous, hein. Bon, ouais, mais ces femmes, c'est rien du tout, et elles font que des conneries, elles font des saloperies. Je suis sûr que c'est des conneries ce qu'elles t'ont fait voir. Bon, écoutez, tu vois, des trucs, des gamins en plus, hein. Des jeunes gens qui voulaient savoir qu'est-ce que t'as vu. Tu sais rien, leur cérémonie, c'est de la merde. Nous, c'est des hommes, on sait le bien. Enfin, de toute façon, il suffit d'être quand même un peu bien construit dans sa tête pour comprendre, quoi. Et donc, il m'avait traité comme une femme relevant de couches. Et en pratiquant, alors, ils m'ont transformé en femme, et après, ils m'ont réintégré dans le monde des hommes parce que j'avais été traité comme une femme qui pouvait vivre avec les hommes. Alors là, j'ai apprécié beaucoup qu'ils utilisent leur culture pour me faire passer quelque chose qui allait contre leur culture, quand même. Hein. Alors après, c'est là que les jeunes, une fois que je pouvais être avec eux, les jeunes gens, dis-moi, qu'est-ce que t'as vu chez les femmes, hein, qu'est-ce que t'as vu, hein, dis-nous, quoi. Hein, c'est de la merde ce qu'elles font, hein, c'est pas sérieux, quoi. Nous, c'est sérieux, t'as vu les grandes cérémonies, tout ça. Bon, ben, tout ça, c'est bien, quand même, non? Très bien. Alors là, voilà des récompenses, quand même. Ça, c'est des récompenses du terrain. C'est quand on te traite comme une femme, après te réintègre comme un homme, et que tu comprends ce qu'on t'a fait. Mais au début, pendant 6 mois, j'ai rien compris. J'étais heureux d'avoir été réintégré, mais quand j'ai compris comment ils m'avaient réintégré, c'était merveilleux, quand même. Merveilleux. Alors on peut dire que quand on te présente l'anthropologue comme toujours le suppôt du colonialisme, le gars qui manipule qui écrit un récit de fiction sur, qui invente les barouillas, qui crée un roman sur des barouillas qui n'existent pas sauf dans sa tête. Ouais, allons voir. Ça se rigole quand j'entends des trucs pareils. Bon, enfin, moi, l'avantage, c'est que j'ai pas eu de formation d'anthropologue. J'ai passé d'un grec de philo, je travaillais sur la philosophie allemande. Après, j'ai fait des mathématiques pendant un certain moment, et mathématiques économiques. J'avais fait une licence de psycho, des trucs comme ça. Donc, le problème, c'est que, à l'époque, j'ai 71 ans, donc il faut se repartir quand j'avais 26 ans. Hein. Donc ça fait un bail. À l'époque, c'était le grand débat existentialisme, marxisme, etc. Ça chauffait. Il y avait Sartre, il y avait tout ça. C'était fabuleux, la vie et les débats à Paris intellectuels, je veux dire, en France, peut-être, tout ça. Donc c'était mieux. Moi, Le soir même de l'agrégation de philosophie, et lorsque le jury m'a demandé ce que je voulais faire, je lui ai répondu « Surtout pas de philosophie ». « Ah bon ? Ça surprend un peu. » Il dit « Mais bon, c'était une autre époque. » Et il dit « Qu'est-ce que vous voulez faire, là ?» Je dis « Voilà, philosopher sur la philosophie, ça ne m'intéresse pas. Un jour, je vais philosopher peut-être sur quelque chose d'autre, mais il faut d'abord apprendre autre chose, justement. » Alors, c'était l'époque assez royale et féodale. « Qu'est-ce que vous voulez faire, mon jeune ami ?» me dit le président jury. « Oh, mais je dis, je ne sais pas, vraiment. Je vais apprendre autre chose que la philosophie, maintenant, pour un jour philosopher sur autre chose, quoi. » Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Bah, écoutez, les mathématiques, ça m'intéresse, mais je ne suis pas très bon, quand même. Et j'avais fait mon diplôme d'études supérieures avec Anguilhem, mais sur un truc assez logique formelle, logique transcendantale et logique dialectique chez Kant et Hegel. Alors, c'était la grosse artillerie, quand même. Mais avec Canguilhem, j'avais beaucoup travaillé sur la normale de pathologique et tout ça. Donc je dis au jury, ben, vous savez, la médecine, ça m'intéresserait bien, quand même, ou la biologie, mais c'est 6 ans de travail encore après la grecque de philo. Le soir même, tu demandes à poser un peu, quoi. Et alors, mais je dis, mais vous savez, ma orientation politique, je suis plutôt marxiste. Finalement, je crois que je vais choisir l'économie. Je vais refaire autre chose. Ah ben, mon cher ami, voilà, le jury vous donne une année d'école normale supérieure de plus pour vous cultiver. Tu vois, c'était magnifique à l'époque, c'est comme ça. Alors, tu vas, après, tu es agrégé, au lieu d'aller dans un lycée enseigner, comme pourtant Sartre l'avait fait, d'autres, ben moi, je vais à la faculté d'économie pour recommencer mes études. Au bout d'un trimestre, je suis parti parce que c'était terrible. On me demandait de réciter par cœur des polycopiés, mais ça n'avait jamais eu de sens pour moi. Réciter par cœur un résumé de Keynes ou de Marx et tout ça, c'est pas possible. Moi, donc j'ai fait comme avec la philo, j'ai commencé à lire tout le Capital, Keynes tout entier dans le texte et tout ça. Et j'ai envoyé promener tous ces professeurs et tous ces assistants qui voulaient me faire réciter pour avoir 12 sur 20. J'en avais rien à foutre, en plus j'étais agrégé, c'est sûr. Donc j'ai commencé à me former, puis je suis parti au CEP, j'ai été accepté au Centre d'études et de programmation économique, où il y avait Malinvaux, qui a été directeur de l'INSEE après. Donc je me suis mis à faire des mathématiques économiques, de l'économie, comme ça. À l'époque, c'était la grande bataille en France, enfin, chez les intellectuels, tout ça, enfin, dans les hommes, milieux politiques, économie de marché, hein, ou économie planifiée. Marxisme, c'était l'économie planifiée. De l'autre côté, le libéralisme, c'est l'économie de marché. Donc j'étais plutôt à gauche, donc je m'intéressais à des modèles d'économie planifiée, mais souple, et non pas stalinienne, passons là-dessus. Bon, et c'est au bout d'un certain temps que je rentrais dans l'univers des économistes, de leurs modèles, que j'ai eu... comment dire, ça ne m'intéressait pas vraiment. Je comprenais, parce que c'était le cadre des luttes, mais j'avais besoin de réalités concrètes, de rapports économiques concrets, et pas les miens, je ne sais pas pourquoi, pas les miens, c'est-à-dire pas l'économie de notre société. Alors, là, il y a des problèmes d'inconscient, pourquoi s'intéresser à d'autres sociétés, disons pas occidentales, plutôt, je sais pas. Il faudra demander à Freud qui m'interprète tout ça, mais peut-être parce que quand j'étais petit, j'étais intéressé par le costume des spahis. Tu vois, je trouvais que c'est très beau, les spahis, hein, avec des bottes, une grande cape, des chevaux, peut-être. Peut-être j'avais un rêve d'enfant d'être un spahi moi-même, tu vois. Enfin, je sais pas, on peut pas savoir. Enfin, ça fait quand même toute une vie, hein, après le rêve. Bon. Alors, à ce moment-là, je me présente à l'école, aux études. Mes anciens professeurs de philo, tout ça, me disent, faut vous présenter à l'école aux études pour un poste de chef de travaux auprès de Braudel, mais vous n'avez aucune chance. Bon, alors je me présente. Brodel m'accueille dans son grand bureau. Il avait des beaux cheveux blancs et tout. Et il me dit, asseyez-vous, mon jeune ami. Je vous reçois parce que j'ai eu tant de personnes qui ont écrit à votre propos que je ne peux pas vous dire non sans vous avoir vu. C'est démarré sec, là. Ça démarrait pas. Bon, très bien. Puis après, grand comédien, là. Mettez-vous à l'aise, je ne vous regarde pas. Mettez-vous à l'aise. Je vais vous poser quelques questions. J'ai passé un examen de passage pendant une heure. Du genre, qu'est-ce que vous pensez de Descartes ? Je me raconte des salades quelconques. J'explique aussi mon intérêt pour la philosophie allemande. Et je cache soigneusement quand même mes racines politiques quand même. Bien. Et d'un seul coup, il prend le téléphone. Il compose un numéro et il appelle à le nom que je... Bon, après, j'ai vu que c'était l'administrateur de l'école des études. Et il dit, voilà, venez, mettez-le sur ma liste. J'ai ici un jeune homme brillant, là, il s'appelle Godelier. Mettez-le sur ma liste comme chef de travaux. J'ai dit, j'étais heureux quand même, non, c'était bien, tu vois, c'est même pas passé devant des commissions avec des syndicats qui me soutiennent ou qui me détruisent, rien du tout, hein, c'était le féodalisme de l'époque, n'est-ce pas? Alors j'ai dit à monsieur professeur, qu'est-ce que je dois faire? Rien, mais je dois aller à votre cours, si vous voulez. Alors qu'est-ce que je dois faire? Cultivez-vous. Hein? C'est quelque chose quand même, hein. Ça se fait plus. Là. Cultivez-vous. Bon. Alors je vais suivre ces cours. Par ailleurs, je suis des cours du CEP, du Centre d'études de programmation économique, avec des polytechniciens, des centraliens, des jeunes qui s'amusaient avec des maths, quoi. Et qui devaient rentrer ensuite au commissariat au plan, c'est pour ça, parce que la France avait un plan avec De Gaulle à l'époque, hein. Et moi, j'étais le canard parmi les... canards noirs, même, parmi les cygnes. Enfin, ça me plaisait un peu, mais je suis les cours de Brodel, et super brillant d'histoire économique et tout. Finalement, je dis à Brodel, ça, vous savez, l'histoire, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est des morts, tout ça. Et puis après, vous passez votre vie au XVIIe siècle, parce que vous devenez spécialiste du XVIIe, mais alors pas le XVIIIe, pas le XVe, non. Bon. Et petit à petit, au fur et à mesure que j'avançais, comme ça, je trouvais qu'il fallait faire de l'anthropologie, enfin, que fallait étudier les systèmes économiques, les rapports économiques de gens qui sont pas chez nous, mais qui sont pas dans le socialisme non plus, qui sont dedans, qui sont soumis à l'un système ou à l'autre. Et c'est presque rationnel, ma conclusion. Je dis, mais le seul domaine qui permette d'aller étudier de l'économie subordonnée, mais qui n'est pas justement la copie de nous-mêmes, c'est l'anthropologie. En anthropologie, il y avait une branche d'anthropologie économique, peu développée. Mais enfin, Malinowski avait le coup là, c'était des échanges et tout ça. Mais bref, il y avait plutôt aux États-Unis un développement avec des batailles qui reproduisaient aussi les grands conflits idéologiques, Il y avait les substantivistes qui étaient dans la théorie classique de l'économie, puis les formalistes qui disaient que l'économie c'est maximiser ou minimiser les trucs, que les primitifs font comme nous, etc. On a une querelle. Je me mets à lire tout ça et l'occasion se présente. Par l'UNESCO, des gens que je connaissais à l'UNESCO, de m'envoyer au Mali. De m'envoyer au Mali pour étudier, et alors ça rejoignit mes opinions politiques, les effets du plan sur l'économie villageoise. Pourquoi ? Parce que le Mali indépendant venait de passer au socialisme africain, avec Modibo Keïta, toutes ces figures-là. Je trouvais ça très bien. D'aller étudier les effets du plan, rupture avec le colonialisme, Bon. Alors, je suis parti avec 40 kilos au moins de photocopies d'articles anglais et autres sur américains sur l'anthropologie économique pour, comme expert, jeune expert qui avait du lait dans le nez, pour étudier les effets du plan sur les sociétés, sur les communautés villageoises. Donc, je suis arrivé, j'ai trouvé un appartement dans une vieille villa que les Blancs ne voulaient pas habiter parce que sous le toit, il y avait un millier de chauves-souris. Ça pue, la chauve-souris, ça fait du bruit. Donc, puis, il n'y avait pas de climatisation. Donc, ce n'était pas vraiment un domaine pour Blancs, ça. Et je commence à demander au ministre du Plan, qui existait, un ministère du Plan, un ministre du Plan, les Land Rover marqués ministère du Plan et tout, il y avait tout ça. Je demande un rendez-vous pour étudier le plan. Mais j'ai jamais eu. J'ai eu 30 ou 27 rendez-vous, mais j'ai jamais vu le ministre et personne. Il y avait un ministre. Il y avait peut-être un plan, mais. Mais moi, je n'ai pas été reçu. Et je n'ai pas eu les moyens de faire mon enquête. Voilà. C'est bien, parce que n'ayant rien à faire, étant payé en Afrique, avec un grand copain qui s'appelle Youssouf Cissé, j'ai lu les 40 kilos de texte. Et quand je suis revenu, j'ai écrit une synthèse de tout ce que j'avais lu, qui s'appelait « Objets et méthodes de l'anthropologie économique », qui était un tabac. Mais bah, j'avais pas fait de terrain. Finalement, mes rapports avec Brodel s'étaient beaucoup détériorés. Parce qu'il s'intéresse. Moi, je m'intéressais plus à l'histoire, et puis lui, il trouvait que j'étais un peu trop, peut-être, je sais pas, abstrait ou n'importe, philosophe, peut-être. Un peu trop à gauche aussi, peut-être, hein, si ça boue. Ce qui fait qu'un jour, j'avais reçu un coup de téléphone du même monsieur qui m'avait mis sur la liste pour me dire que j'étais plus sur la liste. Mais que j'avais été transféré chez. Maître de conférence, je ne sais plus, de Lévi-Strauss. Passer de Brodel à Lévi-Strauss n'est pas désagréable, bien entendu. Donc j'ai téléphoné à Lévi-Strauss, que je connaissais un peu, je lui avais envoyé des articles, il avait trouvé ça très bien, en disant que je venais d'apprendre que j'étais transféré, et que je ne voulais pas lui être imposé, quoi, que ça ne se fait pas pour moi. Il m'a dit, mais je vous en prie, mon cher ami, venez me voir vendredi. Nous avons discuté de vous. Je serais très heureux de vous accueillir dans mon laboratoire, etc. Tout ça, c'est bien, c'est de bon temps. Et donc j'ai eu beaucoup de chance. Hein. C'est une glissade de la philosophie vers l'économie, l'économie vers l'anthropologie. Une glissade presque scientifique, je veux dire, trouver que chercher mon chemin, quoi. Et j'étais obsédé par la question de la rationalité économique, puisque le débat qu'avaient tous ces gens autour de moi, c'était le socialisé supérieur en rationalité. Non, c'est le capitalisme et le marché qui est supérieur en rationalité. Tout le monde discutait la rationalité des systèmes. Et c'est ça qui m'a poussé vers la comparaison des systèmes. Et je voulais pas de ces deux systèmes, je voulais voir d'autres systèmes. En sachant que trouver un système primitif, alors qu'il y a partout le colonialisme et tout ça, c'était peut-être impossible. Donc là-dessus, je me suis pas trop planté là. Maintenant, pourquoi la Nouvelle-Guinée ? Alors là, c'est ça l'intérêt. Je reviens du Mali, heureux d'avoir fait toutes ces lectures, complètement frustré de ne pas avoir fait du terrain, vraiment, quoi. Et j'étais ami de Alfred Métraux, donc on discutait comme ça, et il me dit. Alors je lui explique mes aventures. Ben il me dit, voilà, il faut partir en Amérique latine. Oui, pourquoi pas. Je dis, oui, tiens, ma femme, ma première femme, elle était prof d'espagnol. Moi, oui, pourquoi pas, oui. Oui, pendant 2-3 semaines, on discute de temps en temps, et il me dit d'aller dans le premier terrain qu'il avait fait, lui, il avait 60 ans, quand il avait 20 ans, etc. Une après-midi, les choses allèrent de se boucler, on discute une heure ou deux, bon, ça y est, c'était à peu près dessiné, je le quitte, et Deux heures après, il se suicide. Donc, il se suicide. J'en ai rien vu, j'étais le dernier avec lui. Hein. Il m'a quitté, il est parti dans la vallée de Port-Royal et il s'est suicidé. Bon. Deux jours ou trois jours après, on l'enterre. Donc, il y avait Lévi-Strauss et moi et d'autres autour au cimetière de Bagneux. Et je raconte à Lévi-Strauss que, bon, ben, j'étais prêt à partir en Amérique latine pour un terrain chez les Indiens. Et que c'était un peu à cause de cet échec relatif, enfin, vraiment, en tout cas, en Afrique, quoi. Alors que ça me fascinait, l'Afrique. Et c'est là que Lévi-Strauss, très, très gentiment, me dit, mais nous avons beaucoup de Français en Amérique. Si je me permets de vous donner un conseil, le paradis aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Guinée. C'est là que se trouvent les Américains, les Australiens, etc. Donc il me donne gentiment le conseil d'aller en Nouvelle-Guinée. Donc pendant deux ans, je lis des tas de bouquins sur la Nouvelle-Guinée, parce qu'il fallait partir pour longtemps, ramasser de l'argent, passer au CNRS à partir de l'école des études, parce que c'est un détachement de deux ans au moins pour une longue mission, tout ça. Donc ça traîne. Je demande à des copains américains, tout ça, par Jacques Barrault d'ailleurs, Jacques Barrault qui est mort maintenant, mais qui avait été professeur à Yale et tout ça, de contacter des Américains pour voir un terrain possible. Donc je reçois des indications, j'ai une feuille de route, comme dirait l'autre, n'est-ce pas, avec des noms de tribus qui sont là, comme ça. Et j'avais demandé à Lévi-Strauss du temps pour aller choisir moi-même sur cette liste. Je ne pouvais pas lui dire d'avance. Et donc, je suis parti en Nouvelle-Guinée. Et finalement, j'ai choisi des Barouya qui n'étaient pas sur la liste. Là encore, tout ce déplacement incroyable, c'est ça ce qui est magnifique, non ? Magnifique. C'est-à-dire, je commence par... j'apprends le pidgin mélanésien, donc je m'en vais en Australie, je me mets dans un laboratoire de linguistique, 8 heures par jour avec des écouteurs et tout, j'apprends le pidgin, et après je pars parce qu'il fallait avoir une langue de contact, et avec ma liste, on m'aide plus ou moins parce que les Français n'étaient pas très aimés à cause du général de Gaulle qui avait foutu les Américains à la porte de France, tout ça, on était très mal vus les Français. Froggies, tout ça, tout le temps insultés, plus ou moins. Enfin bon, t'arrives avec Lévi-Strauss derrière, ça c'est impressionné quand même. Hein. Bon. Et alors, le hasard, c'est que je traverse une rivière, je manque de me noyer, tout ça, c'était quand même Indiana Jones. Hein. Hein. Et donc, partir dans la brousse, trouver les Wafa qui étaient sur la liste première. Personne n'y avait été depuis 10 ans, alors je prends deux guides. Donc c'était Boy Scout. Hein. Et au bout de 3 jours de marche, après avoir manqué d'être noyé en traversant la Ramo River qui fait 600 mètres de large, il n'y avait pas de pont. J'arrive... vraiment, une grande falaise devant moi, des gens faisaient you, 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 tout en haut, là, et deux femmes blanches. Je demande à mes guides, mais qu'est-ce que c'est ça ? Ah ben ! Mais je dis, mais c'est qui ces gens-là ? Ben, c'est les Wafa, mais c'est pas les Wafa. Ils me disent, c'est les Wachakès. Mais je dis, je vous ai dit qu'on allait chez les Wafa. Ben non ! C'est les Wachakès. Mais pourquoi vous m'amenez chez les Wachakès ? Eh, il y a deux femmes blanches, on pensait que ça t'intéresserait. Je dis, oui, je veux dire, pas pour manger et boire un coup, je veux dire. Alors là, je tombe sur deux missionnaires du Summer Institute of Linguistics, très sympas, les sœurs Best, qui étaient là depuis des années, tout ça, qui m'ont accueilli. Et moi, elles n'avaient pas beaucoup de pratique de l'anthropologie, je dois dire. Moi, j'étais là avec des choses en tête, hein, des lectures, hein, les gens comme ça, nous, on lit, on voit des trucs, tout ça. On apprend... il faut faire une généalogie comme ci, comme ça, tout ça. Bon, après, il faut tout réinventer soi-même, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut faire le tri après. Et donc les femmes, comme ça, en discutant avec elles, me disent « Vous voulez un terrain ?»« Oui, oui. » Et ben voilà, regardez la grande montagne là-bas. Alors, la Nouvelle-Guinée, c'est gigantesque, hein, c'est 3000, 3500. Vous voyez la grande montagne là-bas ? Derrière cette montagne, il y a une tribu qui maintenant, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, et on a un missionnaire qui est là. Ça s'appelle les Baruya. C'était pas sur ma liste. Donc je dis, bon, bah, très bien, je vais essayer d'y aller. J'aurais pu dire, tiens, c'est pas moi sur ma liste. Hein. Ah, c'est bien, vous savez, ils sont... Nous, les nôtres, vous allez, ils sont là, les Wachakés, vous voyez, ils sont habillés avec des vêtements européens, mais eux, ils sont tout à fait là-bas, ils sont avec des arcs, des flèches, tu vois, l'imagination enfantine de l'anthropologue, il va voir les gens avec des arcs et des flèches, tu vois, c'est... Donc, je demande aux missionnaires, parce que déjà, il y a 30 ans, les missionnaires américains, c'est poste de téléphone, piste d'aviation, hélicoptère pour venir te chercher, c'était pas comme les Français, hein. Et le lendemain, on vient me chercher. Un avion vient me chercher, m'amène à la base, la fameuse base de Kalumpa, c'était la grande base du Summer Institute, et je passe 2 jours, et hop, je paye pour ça, bien sûr, et je me retrouve chez les Baruya. Où le missionnaire était là, un gars sympa, linguiste, hein, dont j'ai parlé, qui m'attendait, au bord de la piste. Bien. Et alors, il m'explique, bon, qu'il est là depuis 5 ans, qu'il était le premier blanc arrivé, etc. Pas vraiment, parce qu'avant lui, il y avait Gadjusek qui était passé, le prix Nobel de biologie, là, de médecine. Mais bon, mais enfin, lui, il était là. Attendez. Et donc, je vois un peu tous les gens, enfin... Ça me choque un peu, cette choc, c'était ébloui d'abord le 2000 mètres, 3000 mètres, la montagne, c'est très beau, hein, c'est très... Puis tous les gens étaient armés d'arcs, de flèches, de boucliers, tout ça. Et j'avais le droit de voyager, parce que ça venait d'être unrestricted. C'est-à-dire que les Blancs pouvaient circuler au-delà des 5 or 7 miles. Sans quoi ils étaient obligés de rester là, parce qu'il fallait les protéger, quoi. Hein, les tribus étaient toujours en guerre, donc c'est la paix blanche était installée, comme dirait l'autre. Donc j'ai pu partir. Le missionnaire m'a trouvé 2 gars qui pouvaient me conduire au-delà de la montagne, dans la deuxième partie du groupe. Et là, le premier jour, j'ai essayé de monter, là. J'arrivais pas, là. Je suis parti à 6h du matin, 4h de l'après-midi, j'étais encore au milieu des flancs de montagne. Les gars, ils m'ont dit, écoute, tu vas me expliquer en pidgin, tu vas crever cette nuit, hein, toi. Il va faire très froid. Toi, t'es pas comme nous. Nous, on peut résister au froid. Toi, t'es blanc, tu pourras pas. Faut que tu redescendes. Putain, 4 heures, faut que je redescende. Donc, je reviens chez le missionnaire, et le lendemain, bon, le coup de fouet, quoi, je pars, et je traverse la montagne, j'arrive. L'endroit où qui était l'autre partie de la tribu, et là, il n'y avait pas de blanc du tout. Hein. Et ça fait un choc. Hein. Toutes les maisons des hommes, tous les jeunes guerriers, tout ça. Ça fait un choc quand même. Hein. Mais en plus, comme j'étais à 2200 mètres d'altitude, tu vois, au-delà, enfin, il y avait un volcan de 3300 là, mais au-delà, tu vois les terres descendre. Mais descendre, tu vois pas le bout, parce que c'est le golfe de Papouasie à 600, à 500 kilomètres. Et tu vois très loin des feux, des fumées qui traversent, hein, qui montent au-dessus de la jungle. Tu sais qu'il y a des gens qui habitent là. C'est très, très impressionnant. Tu sais qu'il n'y a pas de route. Ça crée l'émotion de l'explorateur, quoi. Il faut bien le dire. Hein, il faut bien le dire, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi... Mon genre d'homme, ça me plaisait, moi. Alors après, j'ai vraiment... Moi, je connaissais pas les Baruya, j'ai trouvé qu'ils m'ont fasciné, tout ça. En plus, ils faisaient de la monnaie, là, pour moi, qui m'intéressait à l'économie primitive. Bon, j'apprends sur place que c'était des fabricants d'une monnaie de sel. Par ailleurs, ils étaient des bons guerriers, ils avaient résisté aux Blancs un peu, tout ça, ça me plaisait beaucoup, quoi. En plus, ils vivaient dans des villages de 200 à 250 personnes. Or, je voulais faire venir ma femme et mes deux enfants. Hein. Donc, voilà. Après, je suis parti. Bon. Je suis parti, j'ai visité 3-4 tribus sur la liste. Clac, 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 clac. Il y en avait où vraiment je pouvais pas faire venir ma femme parce que c'était 5 personnes ici, 12 là, 2 jours de marche, c'était des nomades. Bon, j'aurais pas pu, j'aurais dû laisser ma femme quelque part puis être parti. Donc, j'ai dit, c'est papa. Et puis, après, je suis arrivé dans une vallée où il y avait une rivière extrêmement forte, puissante. Le pont était écroulé, on ne pouvait plus passer. Je suis resté 10 jours bloqué là-dedans. Ben, finalement, j'ai décidé que tout ce que j'avais vu, il n'y avait que les Baroya qui étaient intéressants. Un choix, quoi. Pour plusieurs raisons, les monnaies, le fait que je pouvais amener ma femme, que le fait qu'il venait d'être contacté pratiquement, enfin. Donc tout ça, j'ai terminé. J'ai pas été voir tous les autres groupes. Je suis reparti sur Port Moresby. J'ai loué 2 avions, hein, c'était comme ça. Il fallait prendre des Cessna, parce qu'il y avait une petite piste. J'ai rempli de couvertures, de trucs comme ça, je sais pas quoi. Des clous pour faire une maison, des marteaux. On n'apprend pas ça à l'université. Hein. Faire des chaises ou des bancs, c'est pas vraiment. Hein. Et j'ai expliqué, j'avais une bonne mémoire des lieux quand même, parce que quand tu montes, tu regardes les vallées, tu vois. J'avais une carte, donc je voyais. Donc j'avais pris le pilote pour le. Il ne savait pas où étaient les Baroya, hein. C'était pas évidemment. C'est pas le casino, hein. C'est pas. Et donc on a atterri, c'est les Baroya. J'ai retrouvé. J'ai revu les maisons de haut de la. C'était. Bon, moi j'étais à 3000 mètres, tu vois, en dessous. Bon, après on était à 5000, mais bon. Et on est. Et donc je suis arrivé chez Baroya. Donc on voit la série de hasards de. Métro, l'Amérique latine, son suicide. La feuille de route avec des tribus, des gens qui me conduisent pour voir 2 femmes blanches alors que je voulais voir. Et puis tu arrives chez les Baroya, quand même. C'est magnifique, quand même. Ce jeu de. Cette succession de hasards. Et en même temps, j'ai choisi les Baroya. Donc, je les aurais pas connus si les mecs m'avaient pas envoyé chez les Wachakès au lieu d'arriver chez les Wafa. Ça, c'est. Mais à partir du moment où je les ai vus, ils étaient dans ma mémoire avec une certaine image et qualité, attraction, quoi. Donc c'est ça qui est fabuleux, tu vois. C'est comme ça, quoi. C'est. Enfin, en même temps, après, tu fais ton boulot, parce qu'aucune société n'est plus intéressante qu'une autre, ou moins intéressante qu'une autre. Notre boulot était un peu quand même. Bon, tu peux avoir tes rêves et tes petits trucs qui t'excitent. Mais j'ai pas beaucoup de retrouvé de spahi, tu vois, chez les Baroya, parce qu'il n'y avait pas de chevaux, etc. Bon, enfin, bref, voilà. Là, c'est là qu'on voit un itinéraire, hein. Un philosophe pas intéressé à des grandes batailles idéologiques ou des philosophies de Husserl, c'était ça qui m'intéressait, et Marx, etc. Puis passant après à l'économie, parce que. Et c'était la lutte politique en France, et puis c'était des grandes discussions, Sartre et tout ça. Puis ensuite, arrivant en histoire et n'aimant pas l'histoire, parce que finalement les morts m'intéressent moins que les vivants, mais les gars qui passent leur vie à étudier les morts, hein, parce que c'est un métier comme un autre. Ensuite, aller en Nouvelle-Guinée par hasard, parce que c'était pas là que, au départ, je voulais aller plutôt avec mon épouse dans. L'Amérique espagnole, ça lui aurait plu. Alors évidemment, ma femme, quand elle est venue chez les Baroya 6 mois après, s'est tirée parce qu'elle avait peur, puis c'était très dangereux pour les enfants, il y avait des serpents, tout ça. Faire les études, c'était évidemment un peu plus compliqué quand même. Et puis c'était. Donc, de toute façon, elle n'avait pas la possibilité de rester 2 ans, elle était professeure dans un lycée, donc. Mais on voit bien aussi qu'elle ne pouvait pas accrocher là. Hein. Puis elle avait peur de protéger ses enfants. Hein. Oh, putain, là, les serpents, mais tu es fou, ils vont mourir. Alors, donc on voit tout ça. Finalement, ça fait ça fait la vie, quoi, c'est comme ça. Après, rester comme j'ai fait, retourner finalement, accumuler sur 20 ans, à peu près 7 ans de terrain, c'est, ça aussi c'est un choix, hein. Il me semble maintenant, étant donné que j'ai encore 30 cahiers que j'ai jamais touchés, que j'ai jamais mis sur ordinateur, toutes mes généalogies, alors que je sais que c'est un trésor, et que je vieillis, je trouve que j'en ai fait trop pour ce que je pouvais faire après, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'après, j'ai eu des tas de responsabilités, directeur du CNRS et tout ça, donc la vie n'a pas été seulement l'anthropologie et les barouillas. Ça m'a pris un beaucoup quand même. Mais d'un certain point de vue, j'en ai tellement fait sur le terrain que j'en ai trop pour ce que je vais pouvoir faire. Il faudrait que j'aie la sagesse maintenant de cesser de communiquer avec le monde d'ici, partir 5-6 mois avec des tas de paquets de notes et les restituer au Barouilla et à moi-même et à tout le monde d'ailleurs. Ça me pose un vrai problème, hein. Un vrai problème de... Je peux pas confier mes notes à quelqu'un, c'est pas facile, il faut tout refaire avec les autres. Rien que mon écriture à déchiffrer, tout ça, c'est pas marrant. Et puis moi, un nom, quand tu as deux homonymes, par exemple, Kurumbaye, il n'y a que moi qui peux voir. Hein? Tout ça, c'était de l'oral qui devient de l'écrit. Comment veux-tu que quelqu'un, je peux pas passer ça à un étudiant même. On peut essayer de donner ça même des matériaux pour faire des DEA, pourquoi pas, je ne sais pas bien sûr. Mais il faudra que je sois derrière quand même. Donc il faut s'y mettre, quoi. Et là, il y a deux, trois grands dossiers que j'ai et que je n'ai jamais utilisés, quoi. Tout ce travail sur l'agriculture, la place des femmes dans tout ça. Une partie de la description des initiations, puisque j'ai fait des films, on avait traduit du Barouilla en anglais pour Dunlop, quoi. Donc il y a deux volumes de notes qui sont la traduction de ce que disent les Barouillas, quoi, dans l'interaction du film. Tout ça, ça demande des années de travail, hein. Bon, enfin, j'en ai publié beaucoup sur les Barouillas, hein. J'en ai publié un paquet, mais ça suffit pas. On peut me dire, mais pourquoi avoir passé 7 ans sur le terrain sur 20 ans, si c'est pour ne pas exploiter ensuite la mine? C'est vrai, ça me pose un vrai problème. Il y a beaucoup de mes collaborateurs qui sont allés en Nouvelle-Guinée qui m'engueulent, quoi, qui me disent, ah, il faut faire un effort maintenant. Et c'est vrai, quoi. C'est vrai. Et la vie n'est pas seulement que le terrain, n'est pas seulement que les barouillas. Tu es professeur, tu as des thèses, tu as des responsabilités d'administration, tout ça, ça fait partie d'une vie. C'est ça aussi, quoi. Il y a des gens qui sont plus centrés exclusivement sur leur terrain et que moi. Moi, j'ai une vie plus compliquée que d'être... J'ai déjà donné un paquet que assez rare, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années et d'enquêtes systématiques. Mais je n'ai pas consacré le reste de ma vie à les exploiter systématiquement. Parce que la vie offrait d'autres opportunités, quoi. Qui sont parties du registre de la vie d'un prof, hein, d'un prof ou d'un chercheur. Administrer, faire des thèses ou n'importe quoi. Je n'ai pas à rougir de ça, c'est bien. C'est un choix. D'autres auraient pu se refermer sur leur terrain. Alors, ce qui est très important, c'est que quand je suis revenu de Nouvelle-Guinée, j'ai écrit en 8 semaines les 8 chapitres de mon livre. Donc, j'étais enceint. Comment peut-on faire ça, hein? J'ai commencé la production des grands hommes. J'ai mis 9 semaines parce que le ministre Chevènement m'a appelé m'a fait perdre 4 jours pour me nommer directeur du CNRS. Mais passons, c'était 8 semaines d'écriture. 8 chapitres, 8 semaines. Ça tombait comme ça. Putain, magnifique. Et avec un choix de ne pas écrire une monographie où tu as un chapitre, l'économie des barouillas, la danse chez les Barouya, la bouffe chez les Barouya, le soleil pour les Barouya. Refus d'instinct. Pourquoi ? J'ai dit, qu'est-ce qui était le plus important sous mes yeux ? C'est ça. La plupart des anthropologues, ils parlent dans le cadre monographique. Allez, hop, t'as la tartine, etc. C'est bien, ça apporte beaucoup. Moi, j'ai estimé que la vie des Barouya tournait autour des initiations et de la domination des hommes sur les femmes. C'est ça. Donc j'ai écrit La production des grands hommes. Il y a 2 pages sur l'économie, alors je pourrais en écrire un bouquin à tout ça. J'en ai passé 2 années là-dessus. Oui, j'ai trouvé que c'était ça le... Alors, on peut dire, voilà, ce gars, voilà, typique des anthropologues, il choisit arbitrairement. Mais non. Je voyais que tous les jours, le rapport homme-femme, le rapport... Je voyais aussi, j'ai vécu 2 ou 3 initiations masculines, 2 initiations féminines et tout... Je voyais que c'était à ces moments-là que toute la tribu se réunissait. Quand il y avait une petite qui avait ses règles, 900 femmes se réunissaient dans la brousse pendant 2 jours avec elle. Donc c'est un grand truc quand même. Tandis que pour faire de l'horticulture, comme on dit, pas de l'agriculture, mais l'horticulture, ben chacun avec ses voisins, ses cousins, si on peut dire, ses voisins, défriche la forêt, distribue son effort et ses produits. Ils ne se rassemblent pas tous pour dire qu'ils sont des barouillas. Donc moi, je n'avais pas vu d'autres faits sous les yeux pendant des années que les grandes initiations masculines et féminines qui rassemblaient les hommes et les femmes. Même par exemple, les grandes initiations masculines, les femmes sont exclues, bien sûr. Les rituels sont secrets. Mais elles sont là tout le temps, spectatrices, elles apportent à bouffer. Quand les jeunes sont... habillées, décorées, elles sont là à regarder leurs enfants, leurs fils, leurs neveux, tout ça, c'est un grand spectacle, elles sont toutes là, quoi. Donc moi j'ai trouvé que je devais faire le choix d'écrire La production des grands hommes, et pas une monographie. Et comme j'ai démonté à peu près les mécanismes par lesquels les hommes s'inventent supérieur aux femmes, hein. J'ai trouvé que c'était assez... que le processus de création d'une identité qui légitime la supériorité des hommes sur les femmes, hein, les légendes, les mythes et tout ça, les rites ensuite, le sperme, enfin, etc., l'homosexualité masculine, que ces processus existaient chez nous aussi, de la création d'une dimension imaginaire des hommes par rapport aux femmes, mais les résultats, c'est pas imaginaire. Hein, c'est... Les résultats de l'imaginaire ne sont pas imaginaires. Les femmes ne peuvent pas porter les armes, etc., ne contrôlent pas la vie de leurs enfants, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un choix. Quoi. Et ça m'a donné un résultat incroyable. C'est que le livre a été accepté par une majorité de féministes. Ce livre décrit les initiations, l'homosexualité masculine, comme construction de la supériorité masculine quand même, etc. Donc, démonte un peu les dimensions imaginaires et symboliques de la... prétention des hommes à représenter seule la société. Voilà. Donc, le livre sort, et il y a eu 2 courants. Et plutôt la majorité des féministes utilisent mon livre pour dire, voilà, comment les hommes construisent des dimensions imaginaires. Donc, utilisent presque comme un livre féministe, si on peut dire, mon livre. Et puis, comme je montre dans le livre que les femmes participent quand même, partagent ces représentations, et que ce partage des représentations est une force qui les domine, parce que si elles sont d'accord que leur sang menstruel pollue la force des hommes, les champs et tout ça... Si elles sont d'accord avec ça sur elles-mêmes, elles coproduisent leur propre, jusqu'à un certain point, leur propre subordination. Hein? Alors à ce moment-là, cette partie-là, ou ces éléments-là qu'il y a dans mon livre, une série de féministes disent que Godelier prend les femmes pour des connes. Les femmes, elles sont dominées par la violence. Là, il dit que, parce qu'elles partagent des représentations, des mythes, les mêmes mythes, elles consentent à être dominées. Donc, il y a eu deux réactions à mon livre, c'était très intéressant. Une majorité disant, il a bien démonté les trucs, ça peut servir ailleurs aussi. Et l'autre disant, mais les femmes ne consentent pas. Le mot consentement est scandaleux. C'est supposé que les femmes sont cons, enfin sont des connes, qu'elles ne peuvent pas comprendre le sort qui leur est fait ou les explications du sort qui leur est fait. Donc c'était très intéressant, quoi. Donc après, étant donné qu'il y avait dans cette société l'homosexualité masculine, toute la théorie du sperme faisant la force et la vie. Et bien, évidemment, le livre, avec l'évolution de l'homosexualité dans la société, est devenu un livre intéressant pour comparer le statut de l'homosexualité dans différentes sociétés, quoi, puisque personne n'avait jamais travaillé beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'homosexualité dans d'autres sociétés que les Maroya, c'est connu en Nouvelle-Guinée. Mais beaucoup d'anthropologues soit ne pouvaient pas accéder, soit ne voulaient pas accéder à ça. C'était politiquement incorrect ou culturellement incorrect. Je sais pas. Il est certain que il existe une homosexualité féminine, par exemple, en Nouvelle-Guinée. Une des femmes qui ont travaillé avec moi, une chercheuse, était dans une société, elle a décrit quelques petites choses. Ça devait exister ailleurs. Comme femme, elle a pu accéder à ça. Il n'y a pas de dossier, quoi. On ne connaît pas au niveau mondial le statut de l'homosexualité. Il ne faut pas croire que c'est seulement ce qui se passe à Paris ou à Los Angeles. Hein. Donc c'était encore un élément du livre qui a eu, à cause d'un nouveau contexte, une certaine importance. Ouais. Alors, ce qui était étrange, c'est que je pars marxiste, et je vis dans une tribu, à 5 kilomètres, il y en a une autre, parlant une autre langue complètement différente. J'étais à la frontière d'un groupe linguistique. Donc, les tribus ici, les tribus là, c'était les mêmes langues que les Barouya, c'était un groupe, c'était une tribu, d'ailleurs, amie des Barouya, d'ailleurs, le commerce se faisait régulièrement, Mais quand je regarde le mode de production de leur existence, c'était le même que chez les Barouya. La langue était la même, mais les coutumes étaient très différentes. Donc, je dois en conclure que je ne peux pas utiliser le mode de production comme explication de la différence, puisque c'est le même mode et c'est différent. Donc, ayant une bonne tête de philosophe, hein, parce que c'est ça que ça sert la philosophie, surtout à savoir organiser sa tête après le reste, j'ai des doutes, je dois conclure assez rationnellement que je ne peux pas commencer mon livre par l'étude des modes de production, ce que faisaient les marxistes engagés en anthropologie, encore, et que j'aurais voulu faire. Les faits allaient contre moi. D'où je ne fais pas du tout la monographie. Deuxièmement, je ne mets pas l'hypothèse des modes de production comme clé qui m'expliquerait les dieux, la parenté, tout ça, tu vois, l'opérateur universel. Donc quand même, si tu es sérieux avec toi-même et avec les faits, tu es obligé de tirer des conclusions. C'est pour ça que ce que tu as appris avant d'aller sur le terrain, c'est des bouquins, c'est des concepts. Quand tu arrives, il faut vraiment avoir une attitude de vigilance critique et de décentrement par rapport à soi, qui est une tâche pénible. Parce que tu es toujours là avec tes bouquins dans la tête, ou tes belles idées, tu es toujours prêt à voir. D'ailleurs, il y a eu des choses accumulées. Par exemple, moi, quand je suis arrivé chez Barouya, j'ai mis un mois, pas plus, à trouver que ce système de parenté, c'est un système de type iroquois. C'est pas moi qui ai été le premier à identifier ce type. C'était déjà Morgan. Morgan avait déjà, puisqu'il a commencé chez les Dakota, qui était une tribu de la fédération iroquoise, il avait décrit complètement une structure de système de parenté que je retrouvais chez les Barouya. Avec la différence, c'est que les Iroquois étaient matrilinéaires et que les Barouya sont patries. Mais la structure du système de parenté, du point de vue de la terminologie, c'était la même. Du point de vue de la descendance, c'était opposé. Bon, c'est pas moi qui ai inventé tout ça. C'est au moins mes ancêtres, mes prédécesseurs, ils m'apportaient des éléments toujours utiles, quoi. Maintenant, ce que pensait M. Morgan sur la parenté, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un génie. Ben bon, il pensait quand même que la famille nucléaire européenne, père, papa, maman, la bolle et moi, c'était le top niveau, là. C'était la rationalité, là. Alors, il y avait quelques petits présupposés, quand même, non? Mais il avait été capable de découvrir la logique iroquoise, la logique. Il avait été capable de. Et puis à la fin, quand il a écrit le deuxième livre, je ne dis pas qu'il a annulé ses découvertes, mais il les a entièrement faussées, en faisant de l'Occident le point d'aboutissement de l'humanité, quoi. Il n'y avait rien de plus beau qu'un Américain républicain ou démocrate. C'est le top du top de l'humanité, quoi. Chez nous, les Européens, on était encore un peu. Quand il écrivait un peu pris dans tous ces vieux trucs féodaux, et que l'Américain comme lui était libéré de toutes ces entraves, était pleinement épanoui, c'était... Bon, c'est le même homme qui découvre un fondement de la science et qui, de l'autre côté, refoue un paquet d'idéologies occidentales, quoi. C'est comme ça. Tout le monde est contradictoire, mais là, il était bien, lui. Donc, je te dis, on est... Un anthropologue doit vivre en état de vigilance critique permanente, de décentrement systématique par rapport à son éducation, son moi social, son moi intime aussi, parce que les autres, on les apprend dans la vie. Donc la sensibilité à l'autre, comme tu posais la question, un anthropologue, il vit chez les autres. Si c'est une brute épaisse, déjà dans sa société, va avoir du mal à communiquer et à être subtil, hein. Donc même les expériences intimes d'amour, de je sais pas quoi, de comptent ensuite que pour accueillir les autres, les écouter. Sinon, c'était même si tu fais un effort volontaire, parce qu'il faut le faire, hein, t'es obligé de fermer ta gueule devant ce qui se passe. T'es pas là pour embêter les autres, t'es là pour apprendre des autres et tout ça. Donc t'es toujours en surveillance. La spontanéité d'un anthropologue, elle est très contrôlée, hein, quand même. Elle doit l'être, en tout cas. Mais toutes les composantes de l'être, je pense, le moi intime de ta jeunesse, tout ça, ton moi social, tes fils de bourgeois au départ ou pas, tout ça, ça se joue, et il faut que ça soit tenu à distance. Il y a un côté construction d'un nouveau moi, quoi. Un moi cognitif. Mais un moi cognitif, c'est aussi un moi social. C'est celui d'un anthropologue qui a fait ses études à Paris, qui lit le français, plusieurs langues et tout ça. C'est aussi un moi cognitif, c'est aussi un moi social. Il est datable. Mais enfin, c'est pas le moi d'un français qui se balade, quoi. C'est pas du journalisme, même moi j'ai du respect pour les journalistes qui sont sur le terrain de l'immédiat, hein, de l'événement. Bah. Mais après, le sens de l'événement, il faut un peu de recul, quoi. Alors nous, c'est comme ça, notre métier. J'espère que... Oui, je pense. Ouais. Les jeunes sont comme ça. Ouais, partir un peu, prendre du temps, et retourner souvent, etc. Sinon... Et très, il faut être assez cultivé quand même. Je veux dire, il faut être assez cultivé pour... Bon, tu travailles dans une société islamiste, tu connais pas la différence entre le salafisme, etc., le chiisme, tout ça, tu ne peux pas travailler, puisque c'est des cadres de la pensée, c'est des cadres d'action qui sont nés il y a 1000 ans, qui continuent à exister, se sont transformés. Si tu sais pas l'arabe, si tu lis pas ces textes, si tu sais que c'est quoi, tu vas regarder des femmes qui donnent le sein des enfants en se cachant de sein en plus. Non, c'est pas, ça suffit pas. Alors, moi ici, il y avait pas d'histoire derrière moi. Donc, mais si tu travailles en Afghanistan, il faut être cultivé, mais de façon immense. Et en même temps, ça peut te boucher la vue, la culture. Mais c'est comme ça, chacun se démerde. Il faut être vigilant, c'est tout ce qui compte, quoi. Alors, donc, elle qui va travailler chez les Japonais, c'est... Il y en a des choses à lire énormes, hein. C'est une formation érudite, érudito-anthropologique, hein. Bon, je dis pas que tout ce de la culture passée se retrouve dans le présent, certainement pas, pas forcément chez les paysans, mais... ou chez les petits gars qui vont chez Sony travailler, mais si tu connais quand même pas tout ça, quelque chose de tout ça, du moins. C'est... Donc tu vois, les terrains sont inégalement difficiles. Et moi, j'ai critiqué l'autre jour une anthropologue qui a fait un livre, bon, je n'en parle pas, sur son terrain où elle disait, elle donnait l'impression au lecteur, à toi comme à moi, comme à, que le terrain avait été pour elle une expérience, je dirais, thérapeutique. Tu vois ? Elle investissait son moi, sa jeunesse et tout là-dedans. Moi, c'est pas mon cas. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas, je vais pas chercher les autres pour pouvoir aller me chercher tout le temps moi-même, faire une thérapie sur moi-même, tu vois. C'est... Mais surtout, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai discuté avec elle et elle me disait... Comme je connais ton terrain, la longueur du terrain, les enquêtes systématiques qui se recoupent quand même, la bonne volonté des gens pour être emmerdés pendant des années par le même individu que je suis. Moi, j'ai pas pu faire ça sur mon terrain. C'était un terrain où il y avait une guerre civile latente. J'étais complètement coincé. Bon, pas question de faire des enquêtes systématiques sur les généalogies des gens et tout. Ben, donc, qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Moi, je lui ai dit, t'avais qu'à te tirer. C'est pas ta faute. Tu vis des souffrances énormes. Après, t'es complètement emprisonné dans quelque chose et en plus, t'es complètement contrôlé, là. Parce que quand il y a des conflits presque armés dans des groupes sociaux locaux, comment tu veux faire ? Ben, bon, j'ai admiré son boulot, mais... Moi, c'était plus simple, quoi. C'était plus simple. Les gens acceptaient que je reste longtemps, que je fasse que je lance des opérations, quoi, pendant des mois, quoi. Ils avaient le temps et la patience de tous les jours de me voir arriver avec des questions. Mais cet anthropologue, bon, j'ai pas voulu la blesser pour lui dire que. Je trouvais ça impossible, mais c'est quand elle m'expliquait, mais j'ai toujours rêvé à ce que, pas rêvé, mais j'ai toujours pensé à ce que t'as fait, toi, tes enquêtes systématiques, les années où tu es resté, les obstacles relatifs que t'as eus, et moi, j'ai pas pu. J'étais complètement, en plus, femme, non, elle a été assez coincée par son statut de femme. Plus la guerre, c'est pas bon, les guerres, pour faire de l'anthropologie, ça va de soi, non. Donc je lui ai dit, t'avais qu'à te tirer, mais aller ailleurs, c'est tout. Mais après, la souffrance est là. La souffrance des années de terrain, avec un peu un manque, une frustration, c'est dur. On veut s'épanouir dans son travail. Hein? On ne veut pas mourir ni souffrir trop, quoi. Donc, tu vois, c'est des choix très importants qu'il faut expliquer aux jeunes, là.